jusqu'à ce que je regarde autour de moi et que je vois les autres assis ici. J'ai dit non, ce n'est pas encore arrivé parce que s'ils sont encore ici, alors je sais que je suis encore ici. Alors parfois, l'Esprit du Seigneur se montre si bon envers nous. Nous sommes si heureux d'avoir beaucoup d'amis ici dans la salle. Il y en a trop qu'on puisse les nommer. Il se trouve que j'ai remarqué en entrant Frère Carpenter, l'homme qui nous a mariés, ma femme et moi. Frère Carpenter, il a été une grande bénédiction pour nous ici à l'Église. Il a été une bénédiction pour nous dans la voie du ministère. Et il prêche presque partout et nous sommes heureux de l'avoir avec autant d'autres. Maintenant, il y a une autre question qui m'a été posée hier soir. Frère Branham, les cinq vierges folles de Matthieu 25 sont-elles considérées comme le reste des nations? Je comprends que les cinq vierges folles ont été sauvées, mais qu'elles doivent traverser la grande période de tribulation. Est-ce que c'est exact? Si oui, quelle sera leur destination finale? Serait-ce les brebis qui sont séparées des boucs dans Matthieu 25, 33 et 34? Un très bon théologien, selon ce que je pense aussi, qu'ils sont le reste, la Vierge endormie, et le reste dont parle l'Apocalypse, de la semence de la femme qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. Une femme prend une pièce de tissu et l'étend. Eh bien, c'est ce qu'elle taille ou prend son patron et le dépose là où elle veut, de la façon dont elle veut, va le tailler. Et puis, ce qui lui reste s'appelle le reste. Mais elle choisit de le tailler à partir d'un certain endroit par sa propre volonté. Mais ce qui reste s'appelle le reste. Or, vous remarquerez qu'il y avait cinq vierges folles et cinq vierges sages, toutes vierges, mais faites du même matériel, mais par élection. Dieu a choisi son épouse par élection avant la fondation du monde. Il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, Dieu, dans sa pensée étant infini, et nous utilisons parfois le mot « prédestination », mais c'est assurément controversé dans cet âge de l'Église dans lequel nous vivons. C'était certainement une grande chose utilisée à l'époque des martyrs, parce qu'ils y croyaient certainement. Mais ils s'en sont éloignés maintenant pour des idées légalistes, l'enseignement légaliste qui est venu dans l'Église. Ce qui était une bonne chose, parce que tout cela était devenu calviniste en Angleterre au point qu'il n'avait même plus de réveil. Et John Wesley est arrivé prêchant la doctrine arménienne, ce qui l'a équilibré. Dieu va toujours équilibrer la chose. C'est donc les vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, qui, je crois, ont été jetées dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des gémissements et des grincements de dents. Et si vous comparez cela ou vos notes de bas de page, cela revient exactement à la grande tribulation. Et je pense que ce sont elles qui restent en arrière et qui traversent la grande tribulation. Et c'est une grande leçon si on avait le temps de le voir. Souvenez-vous, je vous l'ai dit au début, lorsque vous entendez les bandes, ces choses sont selon ce que je crois être juste. Voyez, maintenant, si elles sont fausses, je ne sais pas quelles le sont. Et je ne peux dire que ce que je crois. Je ne veux pas blesser personne. Nous devons mettre cela de côté quand nous entrons, puis prendre ce qui a été dit et l'éprouver et voir si ce sont vraiment les Écritures ou pas. C'est la meilleure façon de le faire. Puis parce que dans un jour semblable à celui où nous vivons aujourd'hui, dans un pays où tout a été glané à maintes et maintes et maintes et maintes reprises pour toutes sortes de choses, il est difficile d'amener les gens à vraiment le saisir, comme c'est le cas dans un territoire vierge. Vous leur dites, ils le croient, c'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, un viendra avec cette idée-ci, et un autre viendra avec cette idée-là, et nous avons environ 900 et quelques églises dénominationnelles différentes, et chacune est contraire, son enseignement à l'autre. Il doit y avoir quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Donc maintenant, la seule preuve de cela, c'est de ramener cela à la Bible. Vous voyez, la Bible. Maintenant, souvent, les gens y ajoutent leur propre interprétation, mais nous faisons de notre mieux pour ne pas y ajouter aucune interprétation humaine. Lisez-la telle qu'elle et dites, c'est comme cela. Et puis, j'ai toujours observé que si vous prenez exactement ce qu'il a dit, toute l'Écriture va concorder parfaitement. C'est presque comme assembler un casse-tête. Vous devez regarder le modèle avant de pouvoir assembler le casse-tête correctement. Sinon, j'ai toujours dit, vous auriez, dans votre image, vous auriez une vache qui broute de l'herbe au sommet d'un arbre. Donc, ça n'aurait pas l'air bien. Et si nous laissons simplement le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, le Saint-Esprit a utilisé des hommes et a écrit la Bible. Alors, sans le Saint-Esprit, peu importe à quel point vous êtes instruit, vous ne la comprendrez jamais. Parce que même Jésus a remercié Dieu de l'avoir caché aux yeux des sages et des intelligents et de l'avoir révélé aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Et tous les disciples étaient plus ou moins illettrés et sans instruction, à l'exception d'un seul, et c'était Paul. Et Paul a dit qu'il a dû oublier tout ce qu'il savait pour trouver Christ. Il a donc dit à l'Église corinthienne qu'il n'était pas venu avec la sagesse des hommes et de grands discours, parce qu'alors leur foi serait dans la sagesse des hommes, mais il est venu avec eux, avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, afin que leur foi repose sur les œuvres du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Et c'est là que nous essayons de nous accrocher le plus possible en ce moment, parce qu'avant la fin de la semaine ou que la semaine soit terminée, vous le verrez, c'est exactement ce qui s'est passé, le petit fil qui continue tout au long des âges. Merci d'avoir placé le tableau un peu plus haut, ça a l'air mieux. Bon, j'aimerais que nous l'ayons durant tout l'hiver, afin que nous puissions simplement prendre tout le livre de l'Apocalypse et le parcourir en entier. Il renferme de merveilleux enseignements. Et je me souviens, je pense que c'était il y a 20 ou 25 ans, quand l'Église était encore jeune, nous en avons débuté un tôt à l'automne, et cela a duré presque jusqu'à l'automne suivant pour passer à travers le livre de l'Apocalypse. Je me souviens avoir pris le livre de Job. Oh, frère Wright, je suis resté si longtemps sur ce sujet qu'une femme m'a écrit et m'a demandé, « Frère Branham, allez-vous un jour enlever Job de ce tas de cendres? » Eh bien, j'essayais de faire valoir un point, parce que c'est là que le point culminant était atteint, à ce point où jusqu'où l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Puis quand les éclairs se sont mis à briller, le tonnerre a grondé, l'Esprit est venu sur le prophète, et il a vu la venue du Seigneur. Et je voulais enfoncer ça profondément, c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé sur le tas de cendres pendant si longtemps, pour que ce point soit bien compris. Et je sais que ça peut devenir assez fatigant pour certains. Je deviens nerveux aussi quand j'entends quelqu'un tourner autour du pot au lieu d'aller droit au but. Mais c'est peut-être Dieu qui conduit cette personne dans un but précis. Revenons à ce reste avant de terminer cette question. J'espère que je clarifie cela. Ceci, je crois vraiment que le reste est choisi par Dieu. Je crois que Dieu a choisi le reste avant la fondation du monde et qu'il l'a fait par sa préscience. Pas le mot. Maintenant, regardez la prédestination, vous voyez, parce que c'est un petit mot qui dérange les gens, vous voyez. Mais Dieu, avant la fondation du monde, dans sa grande sagesse infinie, a choisi l'Église, a choisi Jésus, a choisi l'Église et a pu prédire au commencement ce que serait la fin. S'il est infini, il n'y a rien qu'il ne savait pas. Il connaissait toutes les puces qui seraient sur terre et combien de fois il clignerait des yeux. Voilà combien de suifs cela donnerait et combien cela en ferait tous ensemble. Ça, c'est infini. C'est l'infini. Il n'y a aucune façon de l'expliquer. Et Dieu, c'est ce qu'il est. Un Dieu infini. Ainsi, si vous remarquez, la Bible dit que dans les derniers jours, l'Antéchrist qui viendrait sur la terre, maintenant écoutez attentivement, c'est le seul défaut. Je pense qu'il pourrait en trouver des millions en moi. Mais l'autre jour, en ce qui concerne notre précieux frère Billy Graham, ce sermon remarquable qu'il a prêché dimanche dernier, j'ai certainement trouvé que c'est un message opportun. Mais il a dit que Satan séduit même les élus. Non, la Bible dit qu'il séduirait les élus si cela était possible. Mais ce n'est pas possible parce que Dieu les a choisis avant la fondation du monde. Voyez? L'agneau, Jésus-Christ, était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Même quand Dieu l'a dans sa pensée, quand il prononce cette parole, elle ne peut jamais changer, elle ne peut jamais être modifiée. Vous voyez, parce qu'il est infini et ses paroles s'accompliront. Pensez-y même, la terre sur laquelle nous nous trouvons ce soir est la parole de Dieu manifestée. Le monde a été formé par des choses qui ne sont pas visibles. Il a simplement dit qu'il y est, et ça y était. Alors, comme il est facile pour ce Dieu de guérir un corps malade, s'il peut créer quelque chose seulement en le prononçant, voyez, sa parole, si seulement nous parvenions à avoir la foi pour voir que c'est la parole, sa parole, nous sommes tellement attachés à la terre et tellement congestionnés dans notre pensée que nous... Oh, je ne sais pas. Nous avons reçu tant d'instructions, une injection de celui-ci, une injection de celui-là, et cela nous a mené au point où notre pensée est toute déformée. Mais si jamais vous pouviez vous libérer de cela, revenir à la connaissance qu'il est Dieu et que ses paroles ne peuvent pas plus faillir, qu'il ne peut faillir, et si cette parole faillit, alors Dieu faillit. Et si Dieu faillit, là, il n'est pas Dieu. Voyez? Alors, et souvenez-vous, il ne peut pas dire une chose ici et quelque chose d'autre ici. Il doit rester avec sa première décision pour être Dieu. Alors, nous, il ne nous a demandé qu'une chose, de croire que ce qu'il a dit est la vérité, il l'accomplira. Oh, que c'est beau! Vous vous attendiez à ce qu'une chose spontanée se produise? Parfois, il faut juste un peu de foi. Cela ne fera pas de miracle. Mais si vous y accrochez, cela vous en sortira. Tenez-vous-en strictement cela. Comme il l'a dit, le grain de moutarde, le plus petit de tous les grains. Mais vous avez déjà remarqué que la moutarde ne se mélange à rien d'autre. Vous ne pouvez pas mélanger la moutarde avec quoi que ce soit, elle ne se mélangerait pas. Et si vous avez la foi, juste un peu de foi, qui ne se mélangera pas avec l'incrédulité ou l'Église ou les dogmes, mais que vous restiez seulement avec Dieu, restez seulement avec cela, cela va vous sortir du brouillard, cela va vous en sortir. Oui, tenez-vous-en à cette foi. Maintenant, au commencement, quand Dieu, la Bible a dit dans Apocalypse, que l'Antéchrist, dans les derniers jours, maintenant regardez toutes ces églises qui s'unissent, l'Antéchrist, dans les derniers jours, séduirait tous ceux qui étaient sur la terre, dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Quand votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Avant que nous n'ayons un monde, vous avez été choisis pour recevoir le Saint-Esprit en cet âge. Je me suis joint à Eddie Perronnette. J'ai ancré mon âme dans le havre du repos. Je ne naviguerai plus les mers. La tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, nous sommes à l'abri. Il n'y a rien qui puisse nous séparer. Dieu ne peut pas, ne revient pas sur sa parole. S'il est infini et qu'il vous donne le Saint-Esprit ici, sachant qu'elle va vous perdre plus loin, comment gère-t-il ses affaires? Si vous n'êtes pas séduit dans votre expérience, si vous avez le Saint-Esprit, mais regardez ce que la Bible dit, Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au prochain réveil. Est-ce que cela sonne juste? Vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à quand? Jusqu'à votre rédemption. Vous prenez un wagon de marchandises, vous le chargez sur la voie, et quand il est parfaitement chargé, maintenant ils ne peuvent pas encore fermer ce wagon. L'inspecteur doit passer. Et il l'examine pour vérifier s'il y a des choses qui peuvent branler. Le wagon de marchandises peut être chargé à pleine capacité, mais s'il y a des espaces vides, vous devez tout recharger. Et c'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Quand l'inspecteur passe, il trouve beaucoup de laisser-aller. Vous voyez, donc il ne le cède pas encore. Un grand théologien est venu me voir l'autre jour, ou pas l'autre jour, il y a 3 ou 4 ans. Il a dit, « Je veux vous demander quelque chose. » Il a dit, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » J'ai dit, « C'est vrai. » Il a dit, « Qu'est-ce qu'un homme pourrait faire de plus que croire? » J'ai dit, « C'est tout ce qu'il peut faire. » Il dit, « Alors, où voulez-vous en venir avec cette histoire de Saint-Esprit en dehors de cela? » Bon, on savait qu'il était baptiste. Il a dit, « Où voulez-vous en venir avec cette histoire de Saint-Esprit? » Il a dit, « Si l'homme croit, dès que vous croyez, vous avez reçu le Saint-Esprit. » Je dis, « Non, non, maintenant, vous faites en sorte que les Écritures se contredisent. » Les Écritures ne se contredisent pas, voyez. Paul leur demandait, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Eh bien, il est vrai qu'Abraham, le père de la foi, a donné. Il avait la promesse de Dieu, il a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais il lui fut donné le sceau de la circoncision comme un signe qu'il avait accepté sa foi. Or, s'il ne vous a jamais encore scellé du Saint-Esprit, il n'a jamais encore accepté votre foi en lui, vous avez encore de laisser-aller, voyez? Vous pouvez y croire, mais il y a beaucoup de laisser-aller. Mais quand vous avez correctement tout comblé, c'est laisser-aller, alors il vous scellera du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. C'est la confirmation de Dieu qu'il a accepté la foi que vous avez confessée en lui. Abraham confessa la foi et Dieu dit, « Je te donnerai un signe maintenant et que je t'ai accepté. » Il lui donna le signe de la circoncision. Or, quand vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, quand vous croyez en lui, que vous lui demandez de purifier complètement votre vie, et lorsqu'il revient ensuite avec le Saint-Esprit et vous donne le signe du Saint-Esprit, vous êtes alors scellé jusqu'à votre rédemption. Ce wagon, s'il est instable, une fois qu'il a été entièrement chargé et qu'on a fermé cette porte et qu'on y a posé un seau, il est scellé jusqu'à sa destination. La compagnie de chemin de fer vous fera jeter en prison pour le reste de vos jours si vous brisez ce seau. On ne peut pas le briser. Il est scellé jusqu'à sa destination. Il n'est pas question que quelqu'un l'ouvre en chemin, regarde dedans, l'examine, il jette un coup d'œil, il rejette quelques petites choses, il en jette d'autres. Non, non. Une église dira bien, ce dogme, ceci ne sert à rien, cela ne sert à rien. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, l'affaire est réglée. Vous savez où vous en tenez. Vous savez ce qui est arrivé. Vous êtes scellé pour tout le trajet jusqu'au jour de votre rédemption, la destination de votre voyage terrestre. Oh là là! Cela devrait amener quiconque à avoir la foi et à croire Dieu et à s'élever simplement dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, ces vierges qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, vous vous rappelez, la seule chose qui leur manquait, c'était de l'huile dans leur lampe. Et juste, la Bible dit que l'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous oignons d'huile les malades et ainsi de suite, car elle est le symbole du Saint-Esprit. Bien. Et alors, si le Saint-Esprit n'était pas venu sur elle, elle n'en avait pas. Et quand il est venu, ils ont dit, or, aux 10 vierges qui avaient l'huile, il a dit, « Voyez, si elle était restée derrière dans l'âge de l'Église, certaines parmi celles qui étaient là étaient de braves personnes, mais n'étaient pas dans la lumière de l'étoile. » Je veux dire, par leur mèche, ne trempait pas dans l'huile. Voyez, elle était en dehors, elle était éteinte, ils s'étaient séparés. En son jour, Paul a dit, ils se sont séparés de nous et n'ont apparemment pas la foi. Voyez, ils s'étaient éloignés d'eux, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Eh bien, cela a commencé dans ce premier âge d'Éphèse et a poursuivi son cours jusqu'à cet âge-ci. C'est pareil, ce qui est arrivé dans chacun de ces âges a continué au cours de ces âges jusque dans cet âge-ci. Dans un petit instant, nous allons voir cela en profondeur. Maintenant, remarquez cependant que cette Vierge est allée là où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements dedans. Permettez-moi de dire ceci, mes chers et tendres amis. En effet, d'habitude, quand je viens à l'église, je viens ici, je tiens un service de guérison et prie pour les malades, puis je m'en vais ailleurs dans le pays. Mais voici l'heure dont je vous ai parlé pendant longtemps. Mettez votre conscience dans votre poche. Or, nous voulons nous rapprocher en étant honnêtes et véridiques l'un vis-à-vis de l'autre, car nous sommes au dernier jour. Oui, maintenant, c'est là que vous, précieux Nazaréens, vous, précieux pèlerins de la sainteté, qui êtes dans la sanctification, vous avez failli. Voyez, eh bien, saviez-vous que Judas Iscariote, dans sa vie, a atteint ce même niveau? Judas croyait au Seigneur Jésus comme son sauveur. Il l'avait accepté comme son sauveur. Il a aussi été sanctifié. Il fut sanctifié dans Jean 17, 17, quand Jésus a dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il était la parole, très bien. Dans Matthieu 10, ils reçurent la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Ils allèrent dans tous les coins du pays en chassant les démons et revinrent en se réjouissant, en criant et en louant Dieu. Et Jésus leur dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt que de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Est-ce juste? Et Judas était avec eux. Judas était du nombre. Mais c'était une année et demie avant que Jésus ne soit crucifié. Maintenant, ensuite, quand vint la Pentecôte où Judas devait recevoir le Saint-Esprit et tout, il montra ses couleurs. Il renia Jésus et le trahit. Et c'est précisément là qu'est arrivé cet esprit au travers de Luther, Wesley. Cette église a été amenée jusqu'à la sanctification par une vie vierge, pure, sans tache, sainte, convenable. C'était les meilleurs gens que vous ayez jamais rencontrés. Mais quand vint le moment où ils se mirent à parler en langue et recevoir le Saint-Esprit, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes indépendants dirent alors, c'est du diable. Et c'est là, cet instant, que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, que vous êtes exclu pour toujours. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Souvenez-vous, tous les disciples ont parlé en langue. Jésus-Christ est mort sur la croix en parlant en langue. Voyez? Si donc vous ne pouvez pas traiter avec ces gens-ci, vous montrez amical vis-à-vis d'eux aussi, qu'en sera-t-il là-bas? Si donc ceux-ci sont des démons, ceux-là l'étaient aussi. Or, vous voyez là où ils ont montré leur couleur, voilà que vient cette Vierge purifiée comme les autres qui mène une vie pure. Je prends les églises à l'ancienne mode, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté qui croyaient fermement à la sanctification, on ne pouvait rien trouver à redire dans leur vie. Elles étaient purifiées au possible. Ce serait une bonne chose si nous pouvions tous vivre comme ça. C'est vrai, il le faut. Or, on sait qu'on a bien plus d'imitateurs chez les pentecôtistes. C'est vrai. Mais quand vous voyez un faux dollar, vous savez qu'il a été fait à partir d'un dollar authentique. C'est juste. Et il y a un authentique Saint-Esprit, un authentique qui parle en langue et qui opère les miracles et des prodiges, et ce, depuis la Pentecôte. Il faut donc avoir des imitateurs. Il faut une femme mauvaise qui ne vaut rien pour que la femme véritable ressorte. Il faut la nuit de profondes ténèbres pour montrer la gloire de la lumière du soleil. C'est juste. Il faut être malade pour apprécier la bonne santé. Et c'est la loi du contraste. Il y en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi tant que le temps sera là. Maintenant, c'est donc là que l'Église est arrivée. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, que ces deux esprits seraient si proches que cela séduira même les élus, si c'était possible? Voyez? Et celui qui a été élu depuis la fondation du monde a la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne peut s'en défaire. Elle est éternelle comme Dieu. Vous ne pouvez pas cesser d'exister, pas plus que Dieu ne peut cesser d'exister. C'est juste, car vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Votre vie a été changée et vous êtes une partie de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Oh, je l'aime, pas vous? Eh bien, quelqu'un m'a remis une note ici, juste une petite question. Nous n'allons pas prendre trop de temps pour y répondre. Et souvenez-vous, chaque fois que vous poserez une question, je ferai de mon mieux pour y répondre si je le peux. Et c'est une question importante. Quelqu'un désirait savoir si c'est mal qu'une femme témoigne ou chante ou donne des messages en langue ou interprète les messages ou la prophétie dans l'Église. Non, ce n'est pas mal. C'est aussi longtemps que cela se fait dans l'ordre. Oui, l'Église est dans l'ordre uniquement quand la bonne et véritable façon de le faire pour ceux qui parlent en langue et autres ou pour les messages qui sont donnés, c'est avant le message apporté à la chair, jamais durant ce temps, quand le Saint-Esprit n'agit qu'à un seul endroit à la fois, comme l'a dit Paul à ce sujet. Mais les femmes peuvent avoir le don de prophétie, le don des langues et d'interprétation, tous les dons, sauf être prédicateur. Elles ne doivent pas prêcher. Il leur est interdit de prêcher dans l'Église, c'est juste, d'occuper un office, d'enseigner ou de faire quoi que ce soit d'autre dans l'Église. Mais pour ce qui est des dons, les femmes peuvent les posséder tous. Elles peuvent posséder l'un ou n'importe lequel des 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens 12, et elle n'est soumise à aucune restriction qui ferait que son message ne doive pas être apporté en son temps. Voyez, chaque message attend son temps. Si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise jusqu'à ce qu'il y ait un interprète, voyez. Et d'habitude, ces messages sont donnés juste avant la réunion. Puis le prophète ou le prédicateur, qui est un prophète du Nouveau Testament, un prédicateur, quand il s'avance, Dieu se met à agir en lui. Voyez? Puis quand il est terminé, alors quelqu'un d'autre ensuite, juste avant. C'est toujours dans l'ordre, toujours. Et une femme en a le droit. Ensuite, j'aimerais prendre un peu de temps pour répondre à ceci. Je vais lire le titre. La traduction d'une Bible faite par 3 croyances différentes s'amorce. Washington, le 15 octobre. Des érudits catholiques, protestants et juifs travaillant en équipe ont commencé une nouvelle traduction conjointe des Écritures qui pourrait s'avérer être la Bible canonique tant attendue. Il y a ici d'autres choses que j'aimerais étudier un petit peu avant d'en faire l'annonce. En d'autres termes, vous voyez exactement ce dont nous parlons, exactement ce que les Écritures annoncent pour ces jours-ci. C'est-à-dire que ces choses s'uniraient et formeraient une image à la bête. C'est exact. Ils ont essayé de le faire, ils y travaillent, et maintenant ils ont la meilleure occasion qu'ils aient jamais eue pour présenter cela, car c'est en leur plein pouvoir. Et c'est pour cette raison même que j'apporte ces messages prophétiques, car je pense que c'est opportun. Et s'il y en a qui ont la possibilité de revenir chaque soir, nous nous efforcerons de commencer tôt et de vous libérer tôt. Si je ne termine pas le sujet, alors je l'annoncerai le lendemain matin. Si nous ne terminons pas le contexte du 19, des versets 9 à 20, ce soir, nous reprendrons cela le matin à 10 heures. Nous vous laisserons savoir à la fin du service comment en sont les choses. Puis demain soir, nous aborderons l'église d'Éphèse pour commencer et nous poursuivrons pendant 7 soirs. Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, puis de Smyrne, puis de Pergame, puis de Thyatire, puis de Sardes, puis de Philadelphie et enfin de Laodicée dimanche prochain. Et sachant qu'il y a sur le chemin ces glorieux joyaux, il m'est difficile de ne pas y toucher avant le temps venu. Comme je les vois, je sens l'Esprit apporter la nourriture aux gens. Cela me donne envie de vite sauter dessus et de dire quelque chose là-dessus, mais je dois vraiment me retenir, les placer dans leur âge et dans leur temps. Ainsi, si vous ne pouvez pas venir ce soir, ne manquez pas de vous procurer la bande ou un autre moyen pour avoir cela, car je veux que ça aille partout. Et je fais ceci parce que je me sens conduit par le Saint-Esprit pour le faire. C'est la seule raison pour laquelle je fais cela. Et si je ne croyais pas que cela puisse aider l'Église? Et souvenez-vous qu'en ce jour, l'heure sonnera bientôt où nous ne pourrons plus tenir ces réunions. Et on doit le faire maintenant, pendant que nous avons l'occasion de le faire. Voyez, nous ne savons donc pas quand ils arrêteront ceci. Il y aura donc une union des Églises et elles s'uniront, formeront la tête de la Confédération des Églises. En effet, ils ont déjà le grand bâtiment des Nations Unies et chaque dénomination s'y regroupe et vous devrez soit appartenir à l'une de ces dénominations ou être chassé. Et c'est le temps où nous devons montrer nos couleurs et être sûrs de connaître, pas une présomption, mais de connaître l'insidie Seigneur où vous tenez. La petite église a toujours été minoritaire, c'est un tout petit groupe qui a un petit fil pareil à un cordon rouge qui se faufile dans la Bible, mais c'est toujours l'église et nous désirons nous en souvenir. Maintenant, juste un petit commentaire avant que nous lisions ce nouveau. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ, dont Dieu nous l'a révélé ce matin comme étant la divinité suprême, le grand « je suis ». Pas « j'étais » ou « je serai », »,« je suis », toujours. Et nous remarquons qu'au chapitre 1er de l'Apocalypse, il s'agit de la révélation de quoi? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qui se révèle à être ici? Qu'il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu trin, mais un Dieu unique. Un Dieu unique. Il se révèle de cette façon au premier chapitre de l'Apocalypse, et il le dit à 4 reprises dans le premier chapitre, afin qu'on ne se trompe pas. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un Dieu secondaire, il est Dieu. Il est Dieu. Et ainsi, la révélation a donc été apportée, et nous allons continuer là-dessus ce soir, quand nous allons aborder les 7 faces distinctes de son être. Et oh, puisse Dieu nous aider pendant que nous enseignons ses paroles. J'ai étudié cela du point de vue historique, mais attendez que je me retrouve ici à la chair pour l'inspiration. Car je ressens que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus et que votre esprit, votre partie, la langue de feu, le Saint-Esprit qui est en vous, se transmet à un autre, de celui-là à un autre, cela embrase le grand corps de Dieu, l'enflamme et c'est là que des révélations. Bon, la chose dont nous parlons, c'est cette question qui m'a été posée. La femme devrait-elle, et ainsi de suite, c'est précisément ce qui a plongé l'Église dans son chaos dès le début. Les gens ont ôté de l'Assemblée tout caractère de piété pour l'attribuer au clergé. Mais Dieu est le Dieu de l'Assemblée. Il agit dans chaque être humain. Il vit dans chaque cœur où il peut entrer. Il trouve ces gens qui ont des dons et agit par eux. Maintenant, si le diable n'arrive pas à les attraper sur une chose, alors il s'amène et fait simplement un grand rassemblement sans valeur et éloigne les gens. Comme Paul l'a dit, lorsque vous vous réunissez, si vous parlez tous en langue et qu'un homme du peuple entre, ne dirait-il pas que vous êtes tous insensés et fous? Si l'un parle en langue, celui-là en désordre et tout ça, ça ne marchera pas. Mais il a dit, si donc quelqu'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, alors ils diront que Dieu est vraiment parmi vous. Mais si quelqu'un parle en langue par révélation et qu'il en donne l'interprétation, quelque chose pour édifier l'Église, alors l'Église entière en sera édifiée. Si Dieu parle au travers de quelqu'un dans une langue qui nous est inconnue, qu'il nous donne cela à l'un et en donne l'interprétation par un autre et annonce une certaine chose qui s'accomplit exactement telle qu'elle a été annoncée, alors l'Esprit du Seigneur est parmi vous. Et oh, faisons tout notre possible pour obtenir cela, les amis. Gardons ce feu allumé. Maintenant, juste avant que nous arrivions ce glorieux canon que sont les Écritures, je me demande si ce serait trop demandé que de pouvoir nous lever et changer de position juste quelques minutes pendant que nous prions. Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité le Seigneur Jésus des morts et qui, 1900 ans après, nous l'a présenté comme le Dieu infaillible du ciel. Nous te remercions pour cela ainsi que pour sa présence parmi nous jour après jour dans notre marche quotidienne. Et nous sommes si heureux de savoir qu'en cette heure de confusion, où le monde ne sait quoi faire, les gens creusent des trous dans le sol, se sont fait des fortifications en béton. Mais, ô Dieu, ils ne peuvent pas s'abriter contre la colère de Dieu. Il n'existe qu'un seul remède, Seigneur, et nous sommes heureux de l'avoir accepté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ô combien nous sommes heureux ce soir pour cette protection pleinement suffisante du sang de l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur qui, ce soir, est dans la gloire en train d'intercéder sur la base de notre confession. Nous sommes si heureux qu'il soit parmi nous ce soir, le grand orateur, le grand Saint-Esprit, le grand dispensateur de l'onction, le grand dispensateur de la vie. Et maintenant, Seigneur Dieu, comme j'ai appelé ces gens à se réunir ici ce soir sous ce toit, et nous nous sommes rassemblés ici en tant qu'Église, ou plutôt une portion de celle-ci. Nous nous assemblons non pas au nom de ce tabernacle, au nom d'un individu, mais plutôt au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit qui conduisait son corps et sa pensée, et qui le contrôlait, vienne en nous ce soir pour interpréter la parole, prêcher la parole et la donner à nos cœurs affamés pendant que nous attendons à lui, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous qui avez vos Bibles, allons au chapitre 1 de l'Apocalypse et commençons au verset 9. Prenez vos crayons et du papier. Je vais essayer de vous donner quelques dates et ainsi de suite au fur et à mesure que je vais avancer. Maintenant, ce matin, c'était en fait plus qu'un sermon. J'ai posé le fondement sur la révélation de la divinité, Dieu révélé en Christ. Combien croient cela? Dieu a été révélé en Christ. Jéhovah a été révélé en Christ. Aujourd'hui, où Dieu doit-il être révélé? Dans son Église, parmi son peuple, en nous. Le même esprit, les mêmes œuvres, les mêmes manifestations, le même amour, le même pardon, la même longanimité, bonté, patience, paix, miséricorde, et tout ce qui était en Christ est dans l'Église. Souvenez-vous, gardez ceci à l'esprit, tout ce qui était, ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Il était corporellement la plénitude de la divinité, et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, la triunité de Dieu, Dieu manifesté de trois manières différentes, Père, Fils, Saint-Esprit. La révélation a montré qu'il n'est pas trois dieux, non plus qu'il est coupé en trois morceaux, mais il est le seul Dieu qui était Dieu dans les jours de la dispensation du Père. Il était Dieu dans les jours de la dispensation du Fils. Il est Dieu dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit. Le même Dieu, pas trois dieux différents, pas trois personnes, pas trois personnalités. Il est une seule personne, une seule personnalité. Vous ne pouvez pas être une personnalité sans être une personne. Certains disent qu'il n'est pas trois personnes, mais il est trois personnalités. Vous ne pouvez pas dissocier cela, car s'il est une personnalité, il est une personne. Pour avoir une personnalité, il faut être une personne. Il est donc une personne, une personnalité, la même hier, aujourd'hui et pour toujours, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui viendra. Oh, il est simplement tout. J'aime cela. Considérez sa nature, sa vie, ses œuvres. Elle devait être manifestée ici même dans ce tabernacle, juste telle que c'était en son jour. Je ne le dis pas pour faire du tort, Dieu le sait. Non seulement ici, mais dans le monde. Je suis si heureux qu'il en soit ainsi. Nous savons donc où nous en tenons, car nous avons ce même esprit en nous, agissant avec nous et montrant qu'il est ici. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous ne pouvons pas faire ces choses. C'est Dieu. En outre, il a laissé le monde scientifique prendre sa photo parmi nous, en nous, autour de nous, au-dessus de nous, agissant en nous et hors de nous. Oh, comme c'est merveilleux! On chantait un petit cantique. « Je suis celui qui parla à Moïse dans le buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham et l'étoile brillante du matin. Je suis la rose de Saron. » Oh, d'où dites-vous que je viens? Connaissez-vous mon père ou pouvez-vous dire son nom? Oh, qui dites-vous que je suis ou d'où dites-vous que je viens? Connaissez-vous mon père ou vous pouvez dire son nom? Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je suis la création tout entière et Jésus est le nom. Oh, comme c'est merveilleux, la révélation. Maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez pas obtenir cela des théologiens, ça ne vient pas comme ça. Cela ne vient que par révélation. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne peut être donné que par révélation. Le fait que Jésus et Dieu sont la même personne ne vient que par révélation. La Bible entière est bâtie sur la révélation. L'Église entière est bâtie sur la révélation. Matthieu 17 dit, « Car j'ai dit, sur ce roc, la révélation spirituelle, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. » Nous défions quiconque de nous montrer n'importe où dans l'histoire ou dans les Écritures où quelqu'un ait déjà été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, en dehors de l'Église catholique, avant le temps de Martin Luther. Puis l'Église protestante, c'était « Et tout mal, suivez, pendant que nous abordons ces âges de l'Église, tout mal qu'il y avait eu dans le premier âge est passé dans l'âge suivant, cela a continué pour se terminer finalement dans une complète apostasie au dernier jour. Tout mal a progressé, traversant chaque Église, chaque petit is qui était apparu. Comme dans Genèse, la vigne a commencé à pousser, elle s'est frayée un chemin à travers l'Église pour apparaître dans les derniers jours. Il n'est pas étonnant que la Bible dise « Heureux ceux qui échapperont à ce jour-là ». Oui, monsieur, qui échapperont à toutes ces choses. Maintenant, demandez à Dieu, pendant que nous parlons de l'Apocalypse, demandez-lui de vous donner la révélation de ceci. En effet, cela ne peut être compris qu'au moyen de la révélation et vous ne pouvez être sauvé que par la révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous est pas révélé. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous pourrez dire, le pasteur l'a dit. La Bible le dit, ces choses sont vraies, l'Église le dit, c'est vrai, mais vous ne le saurez pas vous-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous l'aura révélé et qu'il sera entré en vous. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par la connaissance ni par l'intellect. Comment vont-ils faire une Bible qui a essayé de l'adapter, de la faire convenir aux Juifs, aux catholiques et aux protestants alors qu'ils sont aussi différents que le jour l'est de la nuit? Je pensais que les Juifs étaient avisés, mais je pense que c'est peut-être le temps que tout cela arrive, le temps où tout cela doit tomber dans cette grande apostasie. Donc, en toutes ces choses, souvenez-vous, nous ne pouvons pas arrêter cela. Cependant, la seule chose que nous puissions faire, c'est répandre la lumière là-bas. Peut-être nous livrer en martyr et nous en aller, c'est donc la seule façon dont on peut s'y prendre. Cependant, beaucoup devront le faire. C'est ainsi que la Bible est établie et ainsi que les choses dans lesquelles nous entrons. Si je ne fais pas attention, je vais entrer dans la chose. Or, la première chose dans ce livre de l'Apocalypse, il commence en disant qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Qui il est? Eh bien, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Nous le savons. Combien croient cela? Dites Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et il porte un seul nom. Ce nom est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel vous devez être sauvé, Jésus-Christ. La raison pour laquelle ils en ont peur du baptistère, on ne m'étonne pas. Vous voyez, c'est parce que cet esprit-là s'est glissé là dans l'âge de Smyrne et s'est faufilé jusqu'à dans ce grand âge sombre et a fait de cela une doctrine et est carrément apparu après cela dans les derniers jours. Maintenant, considérez simplement l'histoire et la Bible pendant que nous faisons cette étude cette semaine, la manière dont cela se révèle les choses. Bon, ensuite, cela fut donné à Jean par Christ, par un ange, pour le donner à ses quoi? Églises. Pour le révéler à ses églises. Et les sept étoiles dans sa main étaient les sept messagers de sept églises. Et chaque homme qui recevra jamais le message recevra cela. Le même vrai message qui a commencé au début. Et de plus, quand nous entrerons dans ces profonds passages-là pour voir comment Dieu a établi ces choses, c'est merveilleux. Cela vous fera simplement crier. Je lisais, et puis je faisais un tour un petit instant et pleurais, puis je revenais, je me réessayais, puis faisais encore un tour un instant. Je suis simplement si heureux de savoir que comment Dieu est-il si miséricordieux envers nous pour nous laisser voir cette chose dans cette heure où nous vivons. Eh bien, c'est comme l'a dit Jésus, un homme vendit tout ce qu'il avait pour acheter un certain diamant. Vous vendez au monde les choses du monde et aussi tout ce qui est lié à autre chose pour avoir ceci. C'est juste jeter tout votre encre là-dedans. C'est l'encre de l'âme que de voir la révélation de sa parole. Bon, quiconque la lit est béni. Est juste. Et ce matin, nous avons dit au cœur, vous savez parler, que quiconque en entend la lecture est béni. Donc, cela commence avec une bénédiction pour ceux qui voudront ne fût que s'asseoir pour entendre la lecture. Et c'est une malédiction pour quiconque essaiera d'y ajouter ou d'en retrancher quelque chose. Si donc la Bible révèle clairement que Jésus était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui retranchera de cela. Oui, c'est une révélation. Quiconque ajoutera quelque chose, c'est le canon complet de la révélation. C'est le dernier livre de Dieu, sa dernière parole, sa dernière... Et toute révélation qui viendrait et qui serait contraire à cela est une fausse prophétie. Elle n'est pas de Dieu, car ceci est la vérité. Et souvenez-vous, c'est le seul livre de la Bible sur lequel Christ a annoncé lui-même. Pensez-y, le seul livre, c'est celui de la révélation de lui-même. Le seul livre sur lequel il a posé son sceau et dans lequel il a mis ses bénédictions et ses malédictions et les bénédictions pour ceux qui recevront cela, la malédiction pour ceux qui refuseront de le recevoir. Bon, nous en arrivons donc à l'île de Patmos pour commencer au verset 9. D'abord, nous voulons dire que nous intitulerons ceci « La vision de Patmos ». Cela s'est passé après Jésus-Christ, entre 95 et 96 après Jésus-Christ. Le lieu, c'était l'île de Patmos. Elle est située à 30 000 à l'ouest de la côte de l'Asie mineure, en face de l'église d'Éphèse, dans la mer Égée, qui est bordée par la Méditerranée. C'est là qu'elle se situe. Pensez-y. Eh bien, c'est une petite île située à 30 000 de la côte de l'Asie mineure, dans la mer Égée, juste en face de l'église de l'église d'Éphèse, à laquelle le premier message fut adressé et dont Jean était alors le pasteur. En d'autres termes, là où il était, en regardant derrière à l'est, il regardait droit vers son église, et le premier message était adressé à son église, laquelle représentait un ange de l'église. Très bien, la vision fut donnée à Jean le divin, qui était alors le pasteur de l'église d'Éphèse. Quelle était alors la condition de cette île-là? Où était-ce? En quelles conditions? Très bien. Selon l'histoire, cette île est connue comme rocailleuse et infestée de serpents et de scorpions, de lézards et de tout le reste. Elle a 30 000 de pourtour et est rocailleuse. Et à l'époque de Jean, elle était utilisée comme un Alcatraz, un lieu où l'empire romain exilait les criminels, les grands criminels qu'on ne pouvait pas garder en prison, et ainsi de suite, on les amenait là sur cette île pour qu'ils y meurent. On les laissait là jusqu'à ce qu'ils meurent. Une question. Pourquoi Jean s'y trouvait-il? Un homme pieux, un homme juste, ayant une bonne réputation, un bon caractère, qui n'avait jamais eu de problème. Pourquoi cet homme se trouvait-il? La Bible dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Bon, nous avons le cadre. L'île de Patmos, qui est dans la mer Égée, à 30 000 de la côte et qui a approximativement 30 000 de pourtour, une île rocailleuse et infestée de lézards, de scorpions et ainsi de suite, qui était utilisée comme prison à l'instar d'Alcatraz. Quand on a un prisonnier qu'on ne peut pas garder à la prison, un tel criminel, on l'envoie à l'Alcatraz. Et on prie donc ce Saint Jean, le divin, le dernier des disciples et le seul qui mourut de mort naturelle. Avant d'aller sur cette île, Jean était accusé de sorcellerie. Et on le fit bouillir pendant 24 heures dans une cuve d'huile sans aucune brûlure. Vous n'arriverez pas à faire sortir le Saint-Esprit d'une personne en le faisant bouillir. Il est lui-même le feu. On le fit bouillir 24 heures dans une cuve d'huile sans que cela lui fasse le moindre mal. Il est dit que la raison évoquée par les Romains, c'était qu'il était un sorcier et qu'il avait ensorcelé l'huile. Comme la pensée charnelle peut s'imaginer des choses. Maintenant, voyez, quand on nous traite les lecteurs de pensée, de dire de bonne aventure, de Belzébul, voyez-vous d'où vient ce vieil esprit? Mais voyez d'où vient le véritable esprit? Il remonte à cet âge de l'Église, voyez? 24 heures durant, on l'a fait bouillir dans une huile chaude, bouillante, et cela ne lui a nullement fait du mal. Oh, combien Dieu l'avait fortifié en lui par son Saint-Esprit. Son travail n'était pas terminé. On l'a mis sur cette île pour 2 ans. Et pendant que Dieu l'avait isolé là-bas, il écrivit le livre de l'Apocalypse au fur et à mesure que l'ange du Seigneur lui révélait. Et puis, aussitôt qu'il eut fini, il revint au pays et assuma la charge pastorale de l'église d'Éphèse. Puis il mourut et fut enterré à Éphèse. Jean le divin. Oh, quel contexte alors! Très bien. L'Église était alors sous Jean, plutôt passait par une grande persécution, et Jean écrivit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère à la et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » En d'autres termes, il prenait la parole de Dieu et la confirmait que c'était la parole de Dieu, et Christ venait confirmer en retour qu'il avait raison. Vous y êtes? La parole de Dieu était manifeste en lui, prouvant qu'il était un serviteur de Dieu. Alors les gens ne pouvaient pas nier cela, et ils durent donc le traiter de sorcier, disant qu'il avait ensorcelé l'huile pour qu'elle ne lui fasse pas de mal, et qu'il ensorcelait les gens, et ces derniers n'étaient pas guéris, qu'il était un disant de bonne aventure, qu'il ne pouvait pas, une sorte de mauvaise personne, d'esprit malfaisant, d'esprit immonde, et c'est pour cette raison qu'il l'avait amené là-bas, et il trouvait que c'était dangereux, qu'il reste dans la société, mais il ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu, et au milieu de toutes ces circonstances, Dieu avait un dessein, il ne pouvait pas l'utiliser, il y avait toutes ces persécutions et autres, car les saints venaient, « Oh, frère Jean, que ferons-nous à propos de ceci? Que ferons-nous? » Jean était un prophète, nous le savons. Il posait donc ces questions. Aussi Dieu fait-il en sorte que l'Empire romain le prenne et l'amène là-bas sur cette île? Il lui dit, « Maintenant, viens, Jean, je veux te montrer quelque chose qui va arriver. » C'était le dernier apôtre. Il n'y avait plus pour écrire cela à part Jean. On le régala donc sur l'île de Patmos de 95 à 96 après Jésus-Christ. Et il écrivait cela. Il dit, « Je suis votre frère qui est part avec vous à la tribulation. » Maintenant, il ne parlait pas de la grande tribulation. Il ne s'agissait pas de la grande tribulation. Elle ne vient pas sur l'Église. La grande tribulation vient sur les Juifs, pas sur l'Église. Donc, ce n'était pas la tribulation, la grande tribulation. Maintenant, le verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi la voix, le son d'une trompette. » Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Eh bien, vous ne pouvez rien faire de bon à moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Dieu ne saurait vous utiliser. Vous êtes, tous vos efforts sont en vain à moins de le faire en étant premièrement dans l'esprit. Chose de bon me vient, cela me doit être révélé dans l'esprit et être confirmé par la parole. Cela doit être rendu manifeste par les résultats que ça donne.
And confirmed by the word, made manifest by the results there.
Eh bien, en d'autres termes, si je disais que Jésus-Christ a promis dans sa parole que si je me repentais et je me faisais baptiser au nom de Jésus-Christ, je recevrais le don du Saint-Esprit, la première chose à faire, c'est de me repentir. Il m'est révélé que c'est vrai. Ensuite, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ et il en résulte alors que je reçois le Saint-Esprit. Si je suis malade, il m'a promis que si j'y croyais et j'ai laissé les anciens de l'Église moindre d'huile et me priaient pour moi, la prière de la foi sauverait les malades. Seigneur, je crois, je suis tes instructions. Frère Neville qui prie pour moi, moi moins d'huile, cela règle la chose. Allez de l'avant, c'est terminé. Oh, vous dites que vous ne sentez aucun changement. Jésus n'était pas né. Quand Dieu l'a immolé avant la fondation du monde, quand il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée même de Dieu, il l'était déjà. Je n'étais pas là à ce moment-là, non plus, vous non plus. Mais dans le livre de vie de Dieu, si nos noms y étaient, ils ont été mis avant la fondation du monde. Quand Dieu dit une chose, cela doit arriver aussi. Quand vous répondez aux exigences de Dieu, souvenez-vous, Dieu se manifestera et s'occupera du reste. Vous, allez simplement de l'avant, comme si c'était une œuvre achevée. Oh, ce n'est pas merveilleux. Oh là là, pensez-y. Dites-le simplement à Dieu. Dieu a dit, fais ceci, et moi je ferai ceci. Eh bien, si je vais faire ceci, il devrait faire cela. Eh bien, le diable dit, tu vois, il tarde, ça ne change rien. Une fois Daniel a prié, cela a pris 21 jours avant que l'ange vienne à lui, mais il ne s'est pas découragé. Il savait qu'il viendrait de toute façon. Il a donc attendu jusqu'à ce qu'il vienne là. C'est juste, oh, c'est quand on a la foi. Maintenant, nous devons laisser ça de côté. Nous aurions vite un service de guérison, n'est-ce pas? C'est vrai? Oui, sur la foi, mais nous voulons un service de guérison de l'âme pour guérir l'intérieur, parce que c'est cela qui va demeurer. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle ne disparaît ni ne vieillit. Elle demeure et reste la même. Bon, il fut ravi en esprit avant que quoi que ce soit se produise. Tout d'abord, il était sur l'île appelée Patmos à cause de tout ce qu'il avait fait. Il dit, j'entendis une voix et tout le reste, mais avant que quoi que ce soit se produise, il fut ravi en esprit. Et si vous faites attention là dans votre Bible, esprit est avec un grand E, le Saint-Esprit. Amen. Il entra dans l'esprit. Oh, je pense que c'est merveilleux. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Quel jour? Le jour du Seigneur. Eh bien, il y a là-dessus une grande controverse. Éclaircissons cela juste pendant une minute. Maintenant, comme nous l'avons dit ce matin, certains ont dit que la révélation dont il est parlé dans Matthieu 17, c'était Pierre. L'Église catholique a dit qu'il a bâti son Église sur Pierre, c'était lui le premier pape. Comment pouvait-il être pape en étant marié? Voyez? Et ils ont dit, Pierre est allé à Rome, il a enterré là-bas dans le... Montrez-moi donc un seul endroit dans l'histoire où d'ailleurs, où Pierre soit jamais allé à Rome. Voyez, Paul y est allé, pas Pierre, très bien. Nous voyons donc que tous ces ismes et autres se sont simplement infiltrés. Voyez, mais aujourd'hui, les gens, partout où vous allez, une certaine grande église détient un certain clou qui était dans sa main. Savez-vous combien de clous ils détiennent aujourd'hui? Des clous authentiques qui étaient dans 19. Ils détiennent des os, ils détiennent des morceaux de vêtements qu'ils touchent et manipulent. Mais nous n'avons pas ces choses. Nous n'en avons pas besoin. Christ est vivant. Il est en nous. Pas quelques clous, ni de morceaux d'habits, ni de fragments d'ossements, ni de quelque chose d'autre. Il est le Dieu vivant, vivant maintenant en nous, se manifestant. Un seul mémorial nous a été prescrit, c'est le souper du Seigneur, la commémoration de sa mort. Mais pour ce qui est de Christ lui-même, il est avec nous et en nous. Et c'est la chose que nous voulons agiter, la gloire du Saint-Esprit à la face du monde. Agitez cela jusqu'à ce que la lumière soit répandue. Très bien. Bon, voyez donc que nous avons pris l'autre côté de la route. Vous savez que j'ai toujours essayé d'être comme ceci. Notre Seigneur m'a toujours révélé ceci. Il y a un extrême et un autre extrême. Mais la vérité se trouve juste au milieu du chemin. Avez-vous remarqué là où Ésaïe dit qu'il y aura une grande route, Ésaïe 35? Et vous vous souvenez que nos chers frères nazaréens chantaient ce cantique, vous savez, la grande route de la sainteté, la grande route de la sainteté. Oh, si vous lisez bien votre Bible, il n'est pas dit la grande route de la sainteté. Il est dit, il y aura là une grande route et un chemin. Il sera appelé non pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Et c'est une conjonction qui termine votre phrase. Vous voyez, il y aura une grande route et un chemin qui sera appelé le chemin de la sainteté, non pas la grande route de la sainteté. Vous voyez, on construit une route, un chemin. Lorsqu'on construit une bonne route, on surélève la partie du milieu. Cela permet de renvoyer toute la saleté sur les deux côtés. C'est cela. Quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ. Il est un petit peu émotif, ce sera un fanatique. S'il est un petit peu froid, il se retrouvera de l'autre côté, il sera juste comme un cocombe de ce côté-là, vous voyez, dans son intellect. Mais ce qui est important, c'est d'être juste au milieu de la route, avec assez de l'esprit en vous pour vous garder chaud et en mouvement. Amen. Tout en étant assez avisé pour vous maintenir soumis à l'esprit, pour avancer quand l'esprit avance, pas avant ni après, jusque quand l'esprit avance. L'Église catholique dit que cette révélation, c'était Pierre. L'Église protestante dit que c'était Christ. La Bible, par contre, enseigne que c'était la révélation qu'il avait donnée, que Dieu lui avait donnée de Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ni un homme, ni un séminaire, ni un monastère, rien de tel ne te l'a enseigné. Mais mon Père, qui est dans les cieux, te l'a révélé. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, nous arrivons maintenant à un autre passage, au sujet duquel il y a deux opinions différentes. Maintenant, je peux me tromper, si c'est le cas, Dieu me pardonne, mais je vais être en désaccord avec les adventistes du septième jour, qui disent qu'ils se trouvaient dans le septième jour, le jour du Seigneur. Beaucoup de frères adventistes du septième jour prétendent que c'est le jour du sabbat qu'il a appelé le jour du Seigneur. L'Église chrétienne l'appelle le jour du Seigneur. Le dimanche qui est le premier jour, et nous remarquons bien des fois encore aujourd'hui que l'Église chrétienne, que les protestants se réfèrent au dimanche comme étant le jour du Seigneur. Ce n'est pas scriptural. Dans la Bible, dimanche était le premier jour de la semaine, et non le jour du Seigneur. Et ce n'était pas non plus le septième jour, le sabbat. C'est impossible que cela soit l'un de ces jours, car il a fallu 2 ans à Jean pour écrire l'Apocalypse. Quel jour était-ce? Il y a eu tant de septième et premier jours qui sont passés. La Bible, l'Apocalypse, a été écrite de 95 à 96 après Jésus-Christ, soit pendant 2 ans. C'était le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. C'est exactement ce que ça veut dire. C'était bien cela. Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur viendra. Nous verrons à travers les Écritures qu'il était au jour du Seigneur, qu'il fut ravi en esprit et transporté au jour du Seigneur. Amen. C'est juste. Vous voyez, il était au jour du Seigneur. La Bible parle du jour du Seigneur. Nous allons y arriver dans un petit instant. C'est nombreuses Écritures. D'abord, le jour du sabbat, comme nous en parlons, le jour du sabbat, ce n'est pas observé un certain jour. Nous n'avons aucun commandement qui dise d'observer le samedi comme le sabbat. Nous n'avons aucun commandement qui dise d'observer le premier jour comme sabbat dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, si Jésus leur eut donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. C'est juste. Mais il y a reste un repos ou l'observance d'un sabbat pour le peuple de Dieu. Car nous qui avons aussi cru, nous sommes entrés dans son repos. Nous nous reposons de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Regardez, oh, Dieu soit loué. Je commence à me sentir très bien, je devance ce que je veux dire. Remarquez, le jour du sabbat, Dieu fit la terre en 6 jours, et le 7e jour, il entra dans le repos et ne retournera plus jamais pour créer d'autres mondes. Il le donna ensuite au peuple comme mémorial. En effet, maintenant, vous ne pourriez pas le garder, car pendant que vous gardez le sabbat ici, sur l'autre face de la terre à ce moment-là, c'est encore le dimanche. Cela montre que c'était pour un peuple, pour un lieu et pour une époque, pour Israël. Mais il reste donc l'observance d'un sabbat pour le peuple de Dieu. Pour nous qui y crûmes, nous entrons dans son repos, quoique ses œuvres, je cite Hébreux chapitre 4, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour, et Dieu a fixé de nouveau un jour en disant à David, notez cela, Hébreux 4, il a fixé de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, bien longtemps après et en longtemps plus haut, s'il vous plaît, plutôt il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Jésus leur avait donné un repos un jour, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a un repos de sabbat ou l'observance du sabbat. Le mot sabbat est un mot qui nous est inconnu. Il signifie repos. C'est un mot hébreu qui signifie jour de repos, le jour du sabbat. On ne travaille pas, on se repose. Car si Jésus leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas cela d'un autre jour. Il y a un repos de sabbat ou l'observance du sabbat réservé au peuple de Dieu. Car nous qui entrons dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous n'y reviendrons pas quand le même jour arrive la semaine suivante pour recommencer cela. Nous sommes entrés dans un repos. Jésus, en parlant des béatitudes, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Vous, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison qu'il a déjà tué. Vous avez entendu qu'il avait été dit aux anciens, tu ne commettras pas adultère. C'est le commandement. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Est-ce vrai? Or, toutes ces choses étaient donc des mémoriaux. juste des signes et des prodiges en attendant que je vienne le vrai moment. Maintenant, quand Jésus termine cela dans Matthieu 11, des béatitudes, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, las et chargés, et je donnerai du repos à votre âme. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble et juste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je donnerai du repos à votre âme. » Si vous avez travaillé un jour, 10 jours, 5 ans, 35 ans, 50 ans, 90 ans, et que vous êtes fatigué et épuisé, venez à moi et je vous donnerai du repos. J'ôterai de vous tout ce poids du péché et j'entrerai en vous et je vous donnerai un repos parfait et une satisfaction parfaite. Maintenant, qu'est-ce que ce repos? Voyons cela un petit peu pour voir ce que c'est. Certains disent, eh bien, adhérez à l'Église. Non. Mettez votre nom dans le registre. Non. Eh bien, un certain genre de baptême d'eau. Non. Parlons de ça et voyons ce que c'est. Voulez-vous que nous fassions cela un instant pendant que nous attendons? Nous allons voir où Jean est allé, dans quel genre d'époque il est entré. Quand Jésus est mort sur la terre et que son œuvre a été achevée, il est entré quelque part. Bon, retournons dans Ésaïe chapitre 28, verset 8. Je pense que c'est ça. Ésaïe 28, 8. Lisons Ésaïe 28. Le prophète parle 712 ans avant que cela n'arrive. Maintenant, combien aimerait savoir ce que le véritable sabbat, le véritable repos? Le voici. Maintenant, voici où le prophète en a parlé. Puis je vais vous montrer où cela s'accomplit. Observez Ésaïe 28, 8. Toutes les prophètes prophétisent au sujet de ces jours. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Les gens qui prennent la communion, qui fument, boivent, mentent et volent. Il n'y a plus d'endroit pur. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui pourriez-vous enseigner la sagesse aujourd'hui? Combien ont entendu Billy Graham aujourd'hui? Il a prêché un merveilleux sermon sur la manière dont les gens peuvent croire un mensonge et persévérer dans ce mensonge et même se justifier et pense qu'il faisait la chose juste. Il dit que le public américain accepte ce gain, le filtre d'un homme sage, la cigarette d'un fumeur, acceptant un des mensonges du diable, au lieu d'en faire un insensé qu'il soit parce qu'il fume une telle chose en essayant de faire un homme sage. C'est un insensé du fait même qu'il fume. Cela alors que c'est rempli de la mort, de le cancer et de tout le reste, il fait malgré tout descendre cela dans ses poumons. C'est un insensé. Ce n'est pas le filtre d'un homme sage. Cela n'existe pas. Un homme sage ne consomme pas cette chose-là. Il n'y a pas de vie, sinon dans l'Hortel 92 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. C'est vraiment cela, la véritable vie. Qu'est-ce qui amène les hommes et les femmes à boire cette chose-là? C'est parce qu'ils cherchent à satisfaire cette soif qui est en eux que Dieu a mise là pour qu'ils aient soif de lui. Et ils essaient de la satisfaire avec les choses du monde. C'est pour cette raison que nous avons ces choses. C'est pour ça que les gens agissent comme ça. C'est parce qu'ils essaient d'étancher cette soif qu'ils ont pour Dieu et le diable leur donne la mort à la place de la vie. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Les membres du clergé et tous les autres en parlent. Il n'y a pas de mal à s'offrir un peu de distraction saine. Cela n'existe pas. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Nous ne sommes plus des bébés, là. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le... Quoi? L'observance du sabbat, le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Quand est-ce que cela est arrivé? 712 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont eu des lèvres balbutiantes, qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, qu'ils se sont mis à parler en langue, quand le Saint-Esprit s'est emparé de leur vie, qu'ils ont cessé leur action mondaine, ils entrèrent alors dans un repos avec Christ. Dans Hébreux chapitre 4, Paul a dit que nous sommes entrés dans son repos. Nous nous reposons de nos actions mondaines, comme Dieu l'a fait au jour de sa création. Et il est entré dans son repos et nous entrons avec lui. Comme nos œuvres mondaines sont terminées, voilà votre authentique et véritable sabbat. Paul a donc été ravi dans cet esprit du sabbat et a été transporté par le Saint-Esprit jusqu'au jour du Seigneur. Pourquoi avons-nous des guerres? Pourquoi avons-nous des troubles? Pourquoi une nation s'élève-t-elle contre une autre nation? Jésus est venu, le prince de la vie, ils l'ont tué. Dans quelques semaines ou même maintenant, il y a des reines, des Pères Noël, des tintements de croches et toutes sortes de choses accrochées. C'est une cérémonie païenne. C'est un élément de l'Église catholique. Les gens dépensent beaucoup d'argent et échangent des cadeaux et des choses comme ça. C'est du paganisme. Noël est un jour d'adoration. Et d'ailleurs, Christ n'est pas né le 25 décembre, il ne le pouvait pas. Si vous êtes déjà allé en Judée, les collines sont couvertes de neige, c'est pire qu'ici. Il est né en avril, quand toute la nature renaît. Bon, mais c'est une tradition. Et pourquoi faisons-nous ces choses? Parce que nous suivons les traditions des hommes au lieu des commandements de Dieu. Quelque chose comme ça n'aurait pas d'importance, mais ils en font un jour commercial. C'est une disgrâce. C'est une honte qu'ils fassent de telles choses. Une cérémonie païenne. Depuis quand y a-t-il un lien entre le Père Noël et Jésus? Depuis quand y a-t-il un lien entre un lapin de Pâques et un poulet ou un thym avec une certaine encre ou autre chose, ou une espèce de petit lapin blanc et la résurrection de Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas comment le monde du commerce? C'est la raison pour laquelle ils vendent ces vieux livres de rock and roll et ces images obscènes, vulgaires et des choses du genre. C'est parce que les gens en ont eu une nature qui désire ardemment de telles absurdités. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Ils ne sont jamais entrés dans ce repos avec Dieu et ils ne sont jamais détournés de ces choses. Quand ils entrent et reçoivent le Saint-Esprit, ils en ont fini avec le monde et les choses du monde. Dieu l'a transporté. Oh, je ne crois pas qu'il ait été emporté comme Paul maintenant jusqu'au troisième ciel et a vu ces choses. Très bien, le précieux Saint-Esprit l'a fait il y a quelques semaines. Il m'a laissé voir, en d'autres mots, j'avais peur de la mort. Et le Saint-Esprit m'a amené et m'a montré ce que c'était. Vous avez entendu ce témoignage? Alors, je suis revenu. J'ai dit, alors, mort, où est ton aiguillon? Transporté pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau du... Il m'a permis de revenir pour vous dire que de l'autre côté, là-bas, nous ne sommes pas des fantômes et des esprits. Nous sommes des hommes et des femmes, jeunes, qui ne meurent jamais, qui ne tombent jamais malades. Juste au-delà de ce rideau, la mort ne peut rien faire d'autre que de vous amener directement dans ce lieu. Maintenant, Jean fut transporté en esprit de l'île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Ce sera alors le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, son jugement, ce sera le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent, ils vous font ce qu'ils veulent, mais il viendra un temps. Les gens vous traitent maintenant d'exaltés, de fanatiques, mais il viendra un temps. Vous voyez? Ils ne font plus cela. Ils crieront, se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même sur leur sang, après qu'ils auront été consumés, il ne leur sera laissé ni racine ni rameau. C'est exactement ce que dit la Bible. Les justes marcheront sur les cendres des méchants. C'est exact. Il ne restera d'eux ni racine ni rameau, rien dans lequel revenir. Ils seront détruits. Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'homme, des actions de l'homme, des œuvres d'homme, de l'Église de l'homme, des idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. Bon, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Très bien. Et la première chose qu'il a entendue quand il a été ravi au jour du Seigneur, nous sommes maintenant au verset 10. En esprit au jour du Seigneur, il entendit une voix comme une trompette. Ne lancez pas aucune parabole maintenant. Si nous devons y revenir demain, nous y reviendrons. Vous voyez que quelqu'un surveille l'horloge afin que je dépasse par l'heure. Très bien. Maintenant, fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, quelle est la première chose que vous devez faire? Entrer dans l'esprit. Comment ces révélations vont-elles jamais vous parvenir? Entrer dans l'esprit. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Entrer dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Quand vous étiez un pécheur, que vous alliez une soirée d'ensemble, vous entriez dans cet esprit-là, oh là là. Vous vous mettiez à taper des mains, à taper du pied, à faire la fête, vous jetiez votre chapeau par terre en tournant et tournant, vous comportant de façon ridicule, vous étiez dans cet esprit-là. Pourriez-vous imaginer un homme ou un mordu de la danse aller à une soirée et dire, « Eh bien, je pense que vous vous amusez tous très bien. » On lui dirait-on, « Espèce de tapisserie, sort d'ici. » Si vous allez assister à un match de baseball, que quelqu'un frappe un coup de circuit et fait une certaine chose, vous restez là assis, vous dites, « Bon, je pense que c'était assez bien. » Non, vous n'êtes pas un mordu du baseball, vous n'êtes pas un vrai. Vous n'êtes pas dans l'esprit du baseball. Lorsque quelqu'un frappe un coup de circuit, vous vous levez et criez, « Phew! » Ça, par exemple, victoire! Vous frappez le chapeau sur la tête de quelqu'un comme ça, personne n'en fait cas. Si donc à l'église, vous entrez dans l'esprit, que vous vous levez et criez, « Gloire! Alléluia! Dieu soit loué! » Quelqu'un se retourne et dit, « Exalté! » Oh, frère Wood! Je vais vous poser une question. Si nous sommes des exaltés parce que nous faisons cela, alors eux là-bas, ce sont des exaltés impies. Je préfère être un exalté, pas vous, plutôt qu'un exalté impie. Oh là là, certainement, les exaltés impies. Donc, il a été ravi en esprit. Il est entré dans l'esprit, alors des choses ont commencé à se passer. Et puis, une fois entré là, il a entendu une trompette. Or, une trompette annonce toujours l'approche de quelque chose. Par exemple, quand vous venez, un roi approche, on sonne la trompette. Quand Jésus approche, il sonnera de la trompette. Pas vrai? Quand Joseph sortait, on sonnait de la trompette. Et maintenant, quelque chose approche. Jean est entré dans l'esprit. Il a entendu une trompette. Il a entendu une trompette. Et il s'est retourné pour regarder ce qu'il y avait derrière lui. Quand il a entendu la trompette, après qu'il est entré dans l'esprit, peut-être qu'il dansait, sautait, courait autour de l'île. Il passait des moments merveilleux. Il était ravi en esprit. Ainsi, ça peut avoir l'air sacrilège, mais ce n'était pas mon intention. Vous voyez, c'est possible. Il se peut qu'il ait fait ça. Je crois qu'il passait des moments merveilleux dans l'esprit, à louer simplement Dieu. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé quand l'esprit est tombé sur eux la première fois. Quand le Saint-Esprit était tombé sur eux, ils titubaient comme des hommes et des femmes ivres, se comportaient comme s'il était ivre, bredouillant, se comportaient étrangement, si bien que les gens ont dit, c'est bien, sont remplis de vin doux. C'est ainsi qu'ils avaient agi la première fois et l'Esprit est donc venu de nouveau. Il a probablement agi de la même façon. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. C'est une religion à l'ancienne, oui. En esprit, au jour du Seigneur. Maintenant, nous saisissons cela. Et quoi? Que lui est-il arrivé? Il a été transporté de cette île en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Et aussitôt qu'il s'est retrouvé au jour du Seigneur, il a entendu une trompette. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quelqu'un qui approche. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui approche. La trompette sonne. Quelqu'un arrive. Il a regardé. Alléluia! Trompette qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Ce n'est pas l'annonce de la seconde et la troisième personne, mais de l'unique personne. Je suis et l'alpha et l'oméga. Avant de te montrer quoi que ce soit, je désire te révéler qui je suis. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez pas parvenir au premier but tant que vous ne croyez pas cela. Vous sortez, c'est ce que Pierre a dit. Repentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis de A à Z. Il n'y a rien dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y. C'est ce que dit la trompette. Faites attention, Jean. Tu es entré dans l'esprit. Quelque chose va t'être révélé. Qu'est-ce? Premièrement, une trompette sonne. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première de toutes les révélations. Ô pécheur, incline-toi et repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première chose qu'il lui révéla, qui il était, qui approche. Est-ce le roi Jésus, le roi Dieu, le roi Saint-Esprit? Il a dit, je suis tout cela, je suis de A à Z, je suis le commencement et la fin, je suis le Dieu immortel, éternel. Juste un peu plus loin, nous l'observons sur cette face de sa personne. Remarquez bien cela, ce qu'il est alors. Je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Avant qu'il y ait un premier, j'étais, et après qu'il n'y aura plus le dernier, je serai toujours là, en d'autres termes. Le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Tu verrais bien. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez reconnaître qu'il est quand vous entendez la voix. Bon, la même voix qui a retenti sur le mont Sinaï, la même voix qui a retenti sur la montagne de la Transfiguration, la même, celle de quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme. Maintenant, soyez attentifs au verset suivant. Très bien. Et je me retourne, le chapitre 12 à présent. Nous allons laisser ces églises tranquilles juste un instant, car nous passerons la semaine entière à parler de ces églises. Voyons, nous allons donc tout simplement passer par-dessus cela. Mais il a dit, je vais te charger d'envoyer ce message que je te montre. Qui est-ce? Je suis le premier et le dernier. Je suis la personne suprême. Je suis le Tout-Puissant. Je suis venu te dire que je te donne un message pour les 7 églises. Je veux que tu l'écrives, que tu le prépares, voyez? Et ces 7 églises qui sont en Asie, or c'était des églises en place à cette époque-là, et elles présentaient les mêmes caractéristiques que ces âges de l'église à venir. Bien, et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or. 7 lampes d'or. Maintenant, c'est la version du roi Jacques que vous avez probablement, ou même le Scofield ou la Thompson avec les références chaînées, ou l'une d'elles, le terme n'est pas correct. Il n'est pas question de lampe, mais plutôt de chandelier, de pied de lampe. Je crois que c'est ça le mot juste et correct qui est utilisé dans la traduction originelle. Vous voyez, en d'autres termes, c'est 7 lampes d'or, c'était 7 églises. Il dit un peu plus loin ici, au verset 20, « Les 7 lampes que tu as vues représentent cette église. » Alors, vous voyez, si cela avait été une bougie, elle se serait consumée, elle aurait brûlé jusqu'au bout en un rien de temps. Mais il ne s'agit pas de bougie. Il s'agit d'un pied de lampe. C'est présenté comme un pied de lampe. M'étant retourné, je vis quelqu'un semblable au Fils de l'homme qui se tenait au milieu des 7 pieds de lampe. Maintenant, regardez, la chandelle se consumait en peu de temps. Elle s'éteindrait. Il n'en resterait plus. En quelques heures, elle serait complètement disparue. Mais un pied de lampe, c'est comme, prenons une écriture ici. Prenons Zacharie 4:1, ici, nous pourrons peut-être tirer de Zacharie là ce dont nous avons besoin. Zacharie 4:1. Et je crois qu'ainsi, il sera peut-être possible de trouver ensemble ce que nous tentons d'obtenir. Je ne peux pas trouver Zacharie dans Sophonie, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Ma vieille Bible est presque usée. Zacharie 4:1. Écoutez attentivement maintenant. On en a une belle image ici. Et l'ange, le prophète maintenant, précisément 519 ans avant Christ, et l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Maintenant, le prophète a une vision. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier. » Bon, c'est la traduction du même mot qui a rendu par pied de lampe. Tout d'or surmonté d'un vase, c'était la lampe. Et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Vous voyez, les mêmes âges de l'Église qui arrivent, vous voyez? Il y a près de lui 2 oliviers. Bon, quel genre de... Que brûlait-on dans ces lampes au temps biblique? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? De l'huile. Quelle sorte d'huile? De l'huile d'olive. 2 oliviers. Qu'est-ce que c'est? Le Nouveau et l'Ancien Testament. Il y en a 2 qui se tiennent de chaque côté. L'un à la droite du chandelier et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il va rétablir Jérusalem. » Maintenant, qu'est-ce qu'un chandelier? C'est un pied de lampe. Et remarquez combien c'est beau. Ici, quand il s'est retourné, il a vu cette personne semblable au Fils de l'homme qui se tenait là au milieu des 7 pieds de lampe faits en or, ce qui représente les 7 âges de l'Église à venir. Et chaque conduit, ou plutôt chaque pied de lampe, était relié au réservoir d'huile principale. et cette huile se rendait en haut vers une petite lampe de forme singulière à l'intérieur de laquelle se trouvait une mèche, et cette mèche trempait dans l'huile. Et tant, on versait d'abord de l'huile au sommet du chandelier afin de remplir le grand conduit principal, la grande branche, et ensuite ça se répandait dans les conduits comme ceci, et la lampe avec cette mèche qui descendait dans ce conduit brûlait continuellement jour et nuit. On n'avait pas à l'allumer, elle ne s'éteignait jamais. Il suffisait de verser continuellement de l'huile dans le conduit principal et ses pieds de lampe sortaient comme ceci et les lampes étaient placées à leur sommet. La mèche de la lampe se rendait en bas jusque là dedans et elle tirait sa vie de là. Oh, combien c'est différent d'une bougie! Comme c'est différent! C'est un pied de lampe et ça tire de l'huile. Bon, ces pieds de lampe, le feu qui était sur ces pieds de lampe dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allumait une lampe, on ne fait pas allumer la lampe suivante avec le même feu qu'on avait à la main. On allumait une lampe, puis à partir d'elle, on allumait une autre lampe, puis on la déposait, on allumait la lampe suivante, et avec le même feu dont on s'était servi au commencement. Oh, j'espère que cela ne passe pas par-dessus votre tête. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même feu, le Saint-Esprit, allume chacune de ses églises tout au long des âges. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Or, lui, il est le cep principal. Nous, nous sommes les sarments, mais le cep ne porte pas les fruits. Que vous pouvez prendre des arbres d'agrumes, un oranger par exemple, et couper une branche disons d'un pamplemoussier. Ensuite, faites une incision sur l'oranger et placez-y cette branche de pamplemoussier, elle va pousser. Si vous allez là et prenez une branche de citron et que vous la greffez sur un oranger, elle va pousser. Ou si vous prenez une grenade et prenez-la ou n'importe quel agrume, une mandarine ou une tangerine ou n'importe lequel de ces agrumes et greffez-le sur cet arbre et il va se nourrir de la vie de cet oranger. Mais il ne portera pas d'orange. Il va porter des pamplemousses, il va porter des tangerines, il va porter des citrons, mais il se nourrit de la vie de cette véritable vigne. Mais si jamais cette vigne portait un autre cep, un autre sarment, celui-ci aura la même vie que celle qu'il y a là. Il portera des oranges. En effet, à l'origine, là, dans les racines, c'était la vie d'un oranger. Mais les autres peuvent vivre de sa vie tant que lui a la nature des agrumes, mais ils ne peuvent pas porter le fruit de l'original parce que cela n'appartient pas à l'original. C'est ainsi qu'est l'Église. Ils ont incisé le cep et ils ont greffé les presbytériens, les méthodistes, les baptistes et les autres. Elles portent des fruits baptistes, des fruits presbytériens, des fruits méthodistes. Mais si jamais cela, cet arbre produisait une autre branche, ce sera le même genre de branche que celle qui a produit le jour de la Pentecôte, la branche originale. Il parlera en langue, il y aura en lui la puissance et les signes de Christ ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit des ressources naturelles du lieu où il a été planté. En réalité, il n'a pas été planté là, il est né. Gloire! Oh là là! Je n'y avais pas pensé avant. Voyez, ces autres branches sont greffées. On les greffe sur l'arbre et si elles portent les fruits selon leur espèce. Elles ne peuvent pas accepter ceci. Elles n'y croient pas parce qu'elles n'en savent rien. Mais si elles sont nées de ce même genre de vie qui sort de cet arbre, la seule chose qu'elles peuvent porter, c'est la vie de la racine originale. Les conduits de ces lampes étaient toutes fixés sur cet énorme vase, un énorme support et 9 distincts, ou plutôt 7 porte-lampes distincts sortaient de cela. Et alors, chacune de ces lumières tirait sa vie de la source principale. Et cela éclairait parce que sa mèche était plongée dans ce récipient principal. Oh, quelle belle image que celle de chacune de ces 7 étoiles représentant cela. Ayant sa vie en feu par ce Saint-Esprit, il, par la foi, il est en feu par le Saint-Esprit et sa vie est une bougie, ou non pas une bougie, mais une mèche qui est plongée dans le Saint-Esprit en Christ. Et par cette mèche, il tire la vie de Dieu pour éclairer son Église. Oh, quelle image du vrai croyant! Quel genre de lumière donne-t-il? Le même genre de lumière que celle qu'il y avait quand la première bougie fut allumée. Lorsque le premier âge de l'Église a commencé, c'était Éphèse. Paul, l'ange de cette Église, une de ses étoiles. Il y a sept étoiles qui représentent sept anges, sept messagers. Cette semaine, je pourrai prendre les Écritures et l'Histoire, vous prouver que chacun de ces anges est un véritable ange et que chaque ange avait la même lumière. C'est vrai. Juste entre ces anges, cette glorieuse personne à venir. Remarquez. Maintenant, il tire la lumière de ce principal récipient d'huile. La lumière, la vie est plongée dans Christ. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ à travers, ou plutôt est cachée en Dieu à travers Christ, et elle est scellée par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun moyen du tout pour vous de vous éloigner de cela. Comment le pouvez-vous? Personne ne peut vous toucher. Le Saint-Esprit brûle un bout de votre vie. Oh, il brûle, il donne la lumière. Où est plongé l'autre bout de votre vie? En Christ. Vous êtes mort et caché en Christ. Le Saint-Esprit basse là à la fin que vous puissiez. Le diable ne peut vous toucher. Amen. Il peut siffler, faire du bruit. Même la mort elle-même ne peut vous toucher. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Gloire soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la fin de ce verset. Et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oh là là. Avez-vous remarqué? Des étoiles, des chandeliers, des lampes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Les bougies, les lumières et les étoiles indiquent que c'est la nuit. Et que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil jusqu'au retour du soleil. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un véritable ministre de Dieu ne reflète pas la lumière d'une lampe de poche, le feu d'une allumette, d'une paille qui brûle. Il reflète les rayons dorés de Christ à l'Église, montrant qu'il est le même, qu'il vit et qu'il brûle en moi. Amen. Voilà la lumière qu'il reflète. L'étoile reflète la lumière du soleil. Voyez, ainsi nous reflétons la lumière du Fils de Dieu, faisant la même chose qu'il fit, donnant la lumière. Quel genre de lumière? La lumière de l'Évangile à ceux... Maintenant, observez, là, juste un peu plus loin, alors que nous prenons le verset de ce verset 13. Et au milieu, c'est le centre, des sept lampes d'or, quelqu'un semblable, fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Bon, voilà une preuve de plus que cette doctrine selon laquelle ceci est le jour du Seigneur est juste. Avez-vous fait attention à lui? Il n'était pas un sacrificateur à ce moment-là. Il n'était pas non plus un roi. Il était un juge. Remarquez, quand un sacrificateur, un souverain sacrificateur entrait dans le sanctuaire ou exerçait son ministère ou était en service, il se saignait au niveau de la taille. Il se saignait au niveau de la taille. Cela signifiait qu'il était en service. Il ne se saignait pas au niveau des épaules. Mais ici, il apparaît marchant, ayant la ceinture attachée vers le haut. Avec une large ceinture au niveau de ses épaules. Il était saint au niveau des seins, de la poitrine, avec une ceinture dorée. Il était saint vers le haut. Qu'est-ce? Un avocat? Un juge? Le juge avec sa large ceinture au niveau des épaules, saint là au-dessus et non pas en bas, comme un sacrificateur. Voyez, cela montre qu'il ne remplissait pas sa fonction de sacrificateur à ce moment-là. Jean alla jusque-là au jour du Seigneur et il le vit venir en tant que juge. Croyez-vous qu'il est un juge? Lisons rapidement Jean 5, 22. Nous verrons s'il est un juge ou pas. Jean 5, 22. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce vrai? Il est le juge suprême. Et Jean montre qu'il n'était pas dans les jours de sa prophétie comme un prophète, qu'il n'était pas non plus là dans les jours de sa royauté, mais il était au jour du Seigneur en tant que juge. Maintenant, combien savent que quand un sacrificateur porte sa ceinture, son cordon autour de la taille, cela signifie qu'il est en service? Tout quiconque lit le Testament, qui connaît l'Ancien Testament, le sait. Lorsque le sacrificateur est saint ici, il est en service. C'est un serviteur. Mais il était saint ici en haut. Un juge. Ils ont un peu plus loin. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, c'est vrai, ici en haut, il était un juge. Maintenant, nous allons lire les sept éléments de la gloire de sa personne. Oh là là! Ceci me fait crier avant que je n'y arrive. Remarquez. Oh, c'est si merveilleux! Écoutez seulement. et sa tête. Maintenant, observez, il y a sept choses ici qu'il mentionne. Sa tête, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, sa voix. Sept choses dont il parlait ici, les sept éléments de la gloire de Jésus-Christ. Laissez-moi le lire. Ses têtes et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quelle vision! Qu'avait-il vu là? Le Fils de Dieu glorifié et un symbole. Maintenant que soyons prêts maintenant. Oh là là, je pensais qu'il était 9h, il n'est que 8h, je n'ai pas encore commencé. Très bien, c'est bon. Maintenant, je suis désolé pour ces frères qui sont debout, ça me rend nerveux de les voir debout, parce que je sais qu'ils ont mal aux jambes. Si seulement j'avais un moyen de faire quelque chose que je puisse faire, je le ferais certainement. Je désire vraiment que vous compreniez cela. Je vous tenais pour un petit moment et Dieu vous récompensera richement, c'est ma prière. Maintenant, observez. La première chose maintenant, c'est que nous remarquons que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Bon, cela ne veut pas dire que c'était à cause de son âge. Ça n'en était pas la raison. Il n'avait pas l'âge. Cela était dû à son expérience, à sa qualification et à sa sagesse. Car il est l'éternel, ce qui est éternel n'a pas d'âge. Vous comprenez? Ouvrons donc d'abord et nous allons le dépeindre ici et nous allons découvrir ce qu'il est. Bon, ouvrons dans Daniel 7:9. Juste une minute, vous verrez la même image dans Daniel, là où il vient, ici, vers l'Ancien des Jours. Et presque tout le monde, les érudits de la Bible, savent exactement à quoi nous allons aboutir maintenant. Daniel 7, le verset 9. Je vais commencer au verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant de cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Maintenant, écoutez. Écoutez attentivement maintenant. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? Dites amen si vous m'entendez. J'ai posé une question à ma femme là derrière. Je crois que ce micro-ci, c'est ce micro qui est branché, n'est-ce pas? J'écris trop fort dans celui-ci, je pense. Très bien. Maintenant, Daniel 7:9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. L'Ancien des Jours. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Des cheveux blancs. Tout le monde sait qu'il s'agit des vieux juges d'autrefois, par exemple des juges anglais qui portaient une perruque blanche comme la neige. Combien se souviennent de cela? Les anciens juges portaient une perruque blanche parce qu'ils étaient, et le voici montrant encore que Jean se trouvait au jour du Seigneur, et il l'a vu en tant que juge. Amen! Pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, pas en tant que prophète, mais en tant que juge. Le Père, dans Jean 5, 22, lui a remis tout jugement. Il est le juge maintenant. Il est venu juger les nations. Oh, c'est en ce jour-là que vous le verrez ainsi. Ses cheveux étaient aussi blancs que la neige. Daniel le vit venir vers l'Ancien des Jours. Vous voyez, le mettre les deux ensemble, très bien. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que la corne, non, je me suis trompé de passage, n'est-ce pas? Daniel 7, 9. Oui, nous y sommes. Et ses roues, un fleuve de feu coulait et sortait de lui, 1000 milliers le servaient. Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Oui, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Ça, ce sont toutes les puissances et les royaumes des gentils qui vont tomber. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ce matin, comment l'avons-nous vu venir au verset 3? Il vient sur les nuées des cieux, le fils de l'homme. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, langues, le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il vint vers l'ancien des jours dont les cheveux sont blancs comme la laine. Et Jean se retourna et vit quelqu'un semblable au Fils de l'homme se tenant au milieu des sept lampes d'or, ayant des cheveux blancs comme la neige. Le juge, il n'était pas saint à la taille, mais ici à la poitrine. Un juge, avec la ceinture large des juges au niveau de ses épaules, il était debout portant une ceinture dorée pure, sainte, purifiée, qui retenait sa justice. Son vêtement, il était couvert jusqu'aux pieds. Observez les sept manifestations de sa personne et de sa gloire. Bon, je crois le verset 14, ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu. Sa tête, ses cheveux, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pensez-y. Ses yeux, qui une fois furent remplis de larmes humaines, sont maintenant devenus une flamme de feu. En colère, il se tient là comme un juge irrité. Pourquoi l'avez-vous rejeté? Ô pécheur, pensez à ceci. Pensez-y, membres tièdes de l'Église. Pensez-y, vous, catholiques, baptistes, presbytériens, pentecôtistes. Pensez-y, vous, catholiques, votre Vierge Marie a dû aller à la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit et elle a chancelé à agir comme une femme ivre. La même Mère de Christ a dû avoir cela avant d'être admise au ciel. Comment, vous, les femmes, allez-vous arriver à ça? Pensez-y, vous, les hommes de chacun de vous. Ses cheveux et ses yeux furent une fois remplis de larmes humaines. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose à propos de ses yeux. Lorsqu'il était sur terre, il était à ce moment-là rempli de larmes, comme ceux d'un homme, car il a pleuré à la tombe de Lazare. C'est vrai. Plein de compassion et d'humanité, il était revêtu. Il était Dieu revêtu d'humanité, afin d'ôter le péché. Mais cependant, derrière cette humanité, il y avait quelque chose au-delà de cela qui pouvait regarder droit au cœur de l'homme et tout connaître à son sujet. Pourquoi? Il y avait quelque chose au-delà de lui. Pourtant, il était revêtu d'une chair mortelle, mais on ne connaissait pas qui il était. Si vous ne croyez pas, a-t-il dit, que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est vrai. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez les œuvres si vous ne pouvez pas me croire. Oh, comme il voulait leur faire parvenir le message, la révélation. Il pouvait regarder droit dans le cœur de l'homme et connaître tout sur lui. Combien je pense à cela? Ses yeux qui, une fois, percèrent les montagnes, regardèrent la souffrance en face et pleurèrent en tant qu'humains. Mais cependant, ils pouvaient saisir l'Esprit de Dieu là derrière cette vision humaine et voir toutes choses, les choses qui sont, les choses qui étaient et les choses à venir. Il a prédit la fin depuis le commencement. C'est pourquoi Dieu était derrière ses yeux humains. Laissez Dieu entrer dans votre vie et prendre le contrôle sur vous et il vous montrera les choses à venir. Car ce ne sera plus vous, ce sera le Saint-Esprit là dans votre vie, regardant au travers ses yeux mortels pour vous révéler les choses. Gloire à Dieu! Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alléluia! Quelquefois, il nous fait dormir afin de pouvoir regarder par vous. Il vous les montrera certainement bien des fois. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur mes servantes et sur ma servante, non sur mes diacres et sur mes pasteurs. Je répandrai mon esprit sur quiconque le veut, sur toute chair. Vous vous demandez pourquoi je crie contre ces choses, mais ça viendra dans ces âges de l'Église. Les voilà, ses yeux. Et souvenez-vous, un jour, ses yeux qui furent remplis de larmes, ses yeux seront là au jugement. Bon, ils sont comme des flammes de feu parcourant toute la terre et rien ne se passe sans qu'ils ne le sachent. Oh là là, c'est enregistré, parcourant la terre, observant chaque mouvement, percevant chaque pensée, sachant tout ce que vous faites, les intentions du cœur, ce que vous avez l'intention de faire. Il sait tout là-dessus, il sait si vous l'aimez, il sait vos intentions sont correctes quand vous le savez, il sait tout là-dessus. Et quand sera-t-il lorsque vous vous tiendrez là en ce jour, lorsque chaque péché sera nu devant lui et qu'il se tiendra là au jugement du trône blanc? Oh Dieu, épargne-moi de cet endroit. Je ne veux pas voir cela. Lorsqu'un Dieu en colère viendra là, le feu jaillissant de ses yeux avec sa justice, la perruque blanche sur la tête comme cela, et ses yeux qui lancent du feu, ses yeux qui discernent les intentions du cœur et tout ce que vous avez toujours eu l'intention de faire. Cache-moi dans le rocher des âges qui a été frappé par moi. Un vieil ami avait l'habitude de chanter, « Lorsque ce monde est en feu, tiens-toi près de moi. Tiens-toi près de moi et toi, que ton sein soit mon oreiller. Cache-moi dans le rocher des âges. Oh Dieu, je ne veux pas passer par ton jugement. Je ne veux pas ton... Ce que je veux, c'est ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi de voir ta miséricorde, pas ton jugement. Accorde-moi de voir simplement ta miséricorde, non pas tes lois. Accorde-moi simplement ta miséricorde, Seigneur. C'est tout ce que je peux demander. Je n'apporte rien dans mes bras. Je ne suis pas bon. Je ne vaux rien. Je m'accroche simplement à ta croix, Seigneur. C'est tout ce que je sais. C'est ce que quelqu'un a pris ma place. Considérez maintenant les sept faces de sa personnalité. Vous verrez ce qu'il a fait. Sa tête était blanche comme la neige, les cheveux blancs comme la laine, et ses yeux étaient comme... Voyons. Sa tête était blanche comme la neige, et ses yeux étaient une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme embrasé dans une fournaise. Observez maintenant, nous venons juste de voir comment il est revêtu, vous savez. Maintenant, observez sa tête, ses yeux. Maintenant, il descend à ses pieds, qui sont semblables à de l'airain. Regardez là le contraste entre cette image de Jésus que Jean a vue et ce que Daniel a vu de l'Empire du monde, la tête d'or et ainsi de suite. Considérez ce qu'il y avait là, l'airain, qui évoque l'airain. L'airain évoque le jugement divin. Cela montre que son dessein complet s'est accompli ici sur la terre quand Dieu s'est fait chair, qu'il est mort pour nous, qu'il a pris le jugement de Dieu, le jugement divin, qu'il a reçu un royaume qui est d'airain, qui est fort et qui ne peut être ébranlé. Il n'y a rien de plus dur que l'airain. Ils n'ont encore rien trouvé qui puisse le tremper. Le jugement, l'airain, montre que le jugement divin est tombé. Regardez le serpent d'airain dans le désert. Que représentait ce serpent d'airain? Le serpent représentait le péché, mais étant d'airain, le jugement était déjà tombé sur le péché. Maintenant, remarquez aussi que du temps d'Élie, quand les gens ont rejeté Élie comme prophète, ce petit fil de l'âge de l'Église d'autrefois, un de ces jours, j'aborderai cela et je vous montrerai qu'Israël eut cet âge de l'Église et qui sont les types exacts de ceci. Et du temps d'Élie, dans leur âge, l'Église, ils le rejetaient et se passa 3 ans et demi sans pluie. Et ce vieux prophète a dit que les cieux ressemblaient à de l'airain. Le jugement divin était sur les nations parce qu'elles avaient rejeté Dieu et l'avaient écouté Jézabel. L'airain représente aussi le jugement divin sur l'autel où le sacrifice était immolé, l'autel d'airain. Immolé, les fondations même étaient d'airain. Le jugement, il a foulé la cuve de l'ardente colère de Dieu et a pris notre jugement sur lui. Allons pour quelques minutes dans Apocalypse 19:15. Voyons ce qu'il a fait. Apocalypse 19:15. Lisons cela un instant si je peux le trouver. Oui, commençons. Voyons verset 12. Ses yeux étaient flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est appelé la parole de Dieu. Bon, rappelez-vous, son nom n'était pas la parole de Dieu. Il fut appelé comme ça. Vous voyez, son nom est appelé la parole de Dieu. Les armées du ciel, les armées qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera, qu'est-ce? Il foulera la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Qu'avait-il fait? La colère de Dieu était sur nous, car nous sommes pécheurs. Est-ce vrai? Personne ne peut se sauver lui-même. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en préférant des mensonges. Et qu'a-t-il fait? Il est venu sur la terre. Alléluia! Et a foulé la cuve. Toute la colère du Dieu Tout-Puissant s'était déversée sur lui. Tu es digne, ô agneau de Dieu, car tu as été immolé. Prenant sur lui les péchés du monde, il porta aussi notre péché, et Dieu déversa sur lui son ardente colère. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jamais un homme ne mourut comme cet homme. Il a souffert au point que le sang et l'eau se sont séparés dans son corps. Et avant sa mort, des grumeaux de sang dégouttaient de son front. La cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Un jour, ses pieds d'airain de sa justice. Gloire! Quand il viendra comme juge, il foulera l'Antéchrist et tous ses ennemis. Alléluia! Il parcourra la terre avec une verge de fer dans sa main. Amen! Oh, repens-toi, ami pécheur, pendant que tu as l'occasion de te repentir. Tu essaies de te débarrasser de cela et tu penses que ce n'est qu'une petite histoire qui n'arrivera jamais. Cela arrivera. Cela ne peut pas arriver. Cela t'arrivera. Des pieds d'airain, écrasant ses ennemis. En effet, il a souffert et a foulé la cuve de la colère de Dieu pour payer le prix de nos péchés. Et alors nous, pauvres vers coupables et misérables que nous sommes, nous faisons la moue, nous lisons un quelconque livre athée, nous essayons de croire que Dieu n'existe pas, et nous disons qu'il n'existe rien de pareil et que le jugement ne viendra pas. De ses pieds d'airain, il écrasera ses ennemis, il foulera l'Antéchrist, il prendra ses églises apostates et les jettera là dans l'éternité, quelque part dans un feu dévorant où elles seront consumées et détruites. Il règnera sur la terre. Lui et son Église pour toujours. Gloire! La tête blanche comme la laine. La justice, l'expérience, l'éloquence, la suffisance, la sagesse, l'âge, le blanc, l'ancienneté parle de la sagesse. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est la source de la sagesse. Il est la source de l'expérience. Il est la source de tout ce qui est bon. Par conséquent, il est représenté par cette personne semblable au Fils de l'homme et qui portait des cheveux blancs qui pendaient. Daniel l'avait vu il y a des centaines d'années avant, 700 ans, et il a dit qu'il était l'Ancien des Jours. Et quelqu'un semblable au Fils de l'homme arriva avec puissance et s'approchait de l'Ancien des Jours, et les juges s'assirent. Maintenant, je veux juste vous demander quelque chose. C'est à toi, Ecclésiade, que je parle. Divier sortir à la rencontre du Seigneur, 5 étaient sages et 5 folles, comme nous l'avons vu ce matin, cette arbre greffée. Bon, rappelez-vous, comme elle sortait à la rencontre de Dieu, maintenant observez, la Bible dit, les livres furent ouverts. Daniel 7, 9, les livres furent ouverts. C'est le livre des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert. Qui vint avec lui? L'Église qui est passée par l'enlèvement. Oh, des myriades de myriades vinrent avec lui et le servaient. Sa femme, l'épouse, oh, gloire! Sa femme vint avec lui, c'est l'Église. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'était les vierges endormies, et tout homme fut ainsi jugé selon le livre. On vous demandera la raison pour laquelle vous n'aviez pas fait ce qu'il fallait faire, et alors, qu'arriva-t-il à ce moment-là? Vous êtes prévenus maintenant, vous êtes prévenus. Peut-être que vous ne le saviez pas auparavant, mais maintenant vous le savez, voyez. Si le juste se sauve avec peine, où se retrouveront le pécheur et l'impie? Où se retrouvera celui qui rejette? Celui qui prévenu rejette cela ensuite. Ses pieds semblables à de l'airain, le jugement divin. Bon, voyons. Allons bientôt à la fin de la page maintenant. cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et ses yeux étaient une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à airain embrasé dans une fournaise et sa voix, le bruit de grandes eaux. La voix de grandes eaux. Que représentent les eaux? Si vous voulez le noter, ouvrez dans Apocalypse 17:15 et vous verrez que la Bible dit « Les eaux que tu as vues, ce sont les masses des foules, des peuples et des langues. » Très bien. La voix. Quelle chose horrible pour une âme en dérive sur l'océan de la vie. Sans pilote pour la guider. Perdu, entraîné par les flots pour entendre le mugissement de grandes cascades, des chutes. Quelle chose horrible ce serait pour une âme à la dérive, la voix de grandes eaux. Qu'est-ce que sa voix? C'est le jugement. La voix des prédicateurs qui, se tenant là par le Saint-Esprit, ont crié aux gens dans chaque âge. La voix de grandes eaux a crié aux masses et aux foules. La voix de ses sept étoiles dans sa main pour chaque âge de l'Église, prêchant le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, le parlant en langue, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le jugement divin. La voix de grandes eaux venant de celui qui était semblable au Fils de l'homme, des grandes eaux. Qu'est-ce que ce sera de savoir que vous avez assisté aux réunions et avez entendu que vous devez vous mettre en ordre avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit, une âme à la dérive qui a entendu cette voix crier dans cette réunion à laquelle vous avez assisté et avez entendu les jugements de Dieu être prêchés, puis vous avez rejeté cela. Les grandes chutes sont juste en dessous de vous, les grandes cascades qui l'amèneront à votre destination éternelle. La voix de grandes eaux, c'est la quatrième chose qui caractérise sa personne. La voix de grandes eaux, comment allez-vous faire alors? Que cela est enregistré dans la gloire, alors que la voix est enregistrée ce soir. Votre voix est enregistrée, vos pensées sont enregistrées. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Remarquez, votre voix crie plus fort au ciel que votre... Je veux dire, vos pensées crient plus fort au ciel que votre voix sur la terre. Certainement, Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur. Il sait tout là-dessus. Il a dit aux pharisiens, « Hypocrite, comment pourriez-vous dire de bonnes choses quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Vous m'appelez bon maître et je sais que vous, je peux regarder au travers de vous et voir que vous êtes hypocrite. » C'est pas ce que vous voulez dire. Oh, quand sera-t-il à ce jour-là quand on aura cette voix qui vient de grandes eaux formée par plusieurs âges de l'Église? Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose d'autre. Laissez-moi vous dire quelque chose à vous qui êtes sauvés. Laissez-moi vous dire ceci. Maintenant, vous, âmes errantes, vous, pauvres errants qui dirigez vers cette grande cascade, prenez garde. Ce sera horrible lorsque vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de salut pour vous. Vous ne pourrez plus être sauvés à ce moment-là. Vous saurez que votre jugement est juste là devant vous. Vous saurez que dans quelques instants, vous allez entendre cette voix dire, éloignez-vous de moi, vous, ouvriers des iniquité et aller dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Vous le saurez lorsque vous entendrez gronder cette grande chute formée des voix de ces réunions quand vous devrez les revoir. Oh, quelle chose horrible! Quel cauchemar! Mes amis, ne laissez pas cela vous arriver! Repentez-vous! Mettez-vous en ordre avec Dieu pendant que vous le pouvez. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose d'autre. Qu'y a-t-il de plus doux pour un homme qui est ancré se reposant sous un arbre à feuilles persistantes, d'entendre les murmures d'un ruisseau. Oh, cela, c'est l'Église, assise dans les lieux célestes avec la voix de Dieu murmurant doucement et ensuite leur parlant. Voyez ce que c'est? C'est la condamnation pour le pécheur et la bénédiction pour le sauvé. Un homme qui a solidement ancré son bateau en Jésus-Christ, le rocher, et s'assoit simplement et écoute. Combien il peut se reposer, entrer dans ce repos, comme j'aime aller là où les eaux coulent. Si jamais nous allons à la pêche ou ailleurs, j'essaie en général de me trouver un endroit où l'eau chantonne parce que cela vous repose. Vous entendez cela toute la nuit. Oh là là! N'est-ce pas merveilleux quand vous pouvez réellement ancrer votre âme en Christ à tel point que vous pouvez être tranquille devant lui et entendre sa voix vous dire « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la vie éternelle. Je t'aime avant la fondation du monde. Je te connaissais. J'ai mis ton nom dans le livre. Tu es mien. Ne crains point, c'est moi. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Alors je chante. J'ai ancré mon âme dans le havre du repos. Je ne naviguerai plus les mers. La tempête peut s'élever alentour. En Jésus, je suis à l'abri. Rappelez-vous, la voix même qui vous parle doucement condamnera le pécheur. Les eaux mêmes qui ont sauvé Noé ont détruit le pécheur. Voyez ce que je veux dire? La voix de grandes eaux. Observez maintenant. Les cheveux comme de la laine. Les yeux comme des flammes de feu. Des pieds comme de l'airain et la voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Bon, prenons le verset 20 juste ici. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Et les 7 messagers, 7 ministres, des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Il a interprété cela pour lui afin d'être sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur. 1 ange pour chaque âge de l'Église. Oh, ça sera merveilleux cette semaine quand nous retournons là dans l'histoire, prendre ces anges et voir le ministère même qu'ils avaient. Ils avaient le même ministère, exactement le même, tout au long de l'âge de cette petite Église. Il y a quelque temps, quelqu'un a dit, vous savez, l'Église catholique, il y a un bon proverbe dit que c'est l'Église véritable, car elle a tenu bon tout au long des âges. Je dis, ce n'est pas un mystère, puisqu'elle avait le soutien du gouvernement et tout, et comment elle a subsisté et bravé les tempêtes. Mais ce qui est un mystère pour moi, c'est comment cette petite minorité a pu braver la tempête, qui était scié en morceaux, jeté au lion, écartelé, dévoré, brûlé et par les lions et tué tout le reste, comme elle a survécu à cela. Cela montre que la main de Dieu était sur elle, c'est tout. Et sa lumière continue à briller aujourd'hui. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, les 7 étoiles qui étaient dans la main droite, il avait 7 étoiles dans sa main droite qui représentent les 7 ministres des 7 âges. Oh, c'est merveilleux. Comment nous sommes retournés en arrière et avons pris le ministre qui avait apporté le message à l'église d'Éphèse et le ministre qui a apporté le message et qui l'a gardé jusqu'à la mort, jusqu'à l'église de Smyrne et à l'église de Pergame, de Thyatire et tout au long des âges et même jusqu'à l'âge actuel. Les ministres qui ont gardé et apporté la lumière et qui l'ont gardé conforme à l'original qui était au commencement et ont apporté la lumière à travers lui. Il les tenait dans sa main. Pensez-y. La main droite ne signifie pas exactement que Christ se tient à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit. Mais Christ était la main droite de la puissance. L'homme, votre bras droit, l'ami qui se tient près de vous, celui qui est le plus proche de vous. Et rappelez-vous, les 7 étoiles étaient dans sa main droite. Pensez-y. Ils tiraient de lui leur énergie, leur lumière. Il était complètement sous son contrôle dans sa main droite. Oh, il en est ainsi pour tout véritable serviteur de Dieu. Gardez dans... Qui pourrait leur faire du mal? Qui pourrait leur faire du mal? Comme l'a dit l'un des anges là-bas au commencement, rappelez-vous, un ange signifie un messager. Nous entrerons plus profondément dans ces choses plus tard au cours de la semaine. Un ange signifie messager. Et Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Serait-ce la maladie? Serait-ce le danger? Serait-ce la nudité? Serait-ce l'épée? Serait-ce la mort? Je suis convaincu, a dit Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, car nous sommes complètement abandonnés dans sa main droite. Quelqu'un dit, saint exalté. Saint exalté. Cela ne les dérange pas le moins du monde. Vous êtes des fanatiques religieux, ils ne l'entendent même pas. Ils seront complètement abandonnés, ils tirent leur lumière de son puissant bras droit, reflétant sa lumière dans la douceur, la bonté, la gentillesse, la patience, les signes, les prodiges et les miracles. Que le monde appelle cela de la sorcellerie, tout ce qu'ils veulent, ça ne change rien pour nous, car nous savons que nous sommes abandonnés et que nous sommes dans sa main droite. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là! Maintenant, dépêchons-nous parce que nous ne voulons pas vous épuiser. 7 étoiles dans sa main droite. Maintenant, le 7e est la dernière représentation de sa personne. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Je voulais dire le 6e. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Maintenant, la voix de grandes eaux, et de sa bouche, il y avait 7 étoiles dans sa main droite. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Maintenant, savez-vous ce que signifie l'épée aiguë à 2 tranchants dans la Bible? Examinons cela, vous saurez. Prenez Hébreux 4, 2, juste 1 ou 2 pages avant cela, c'est ça. Hébreux, c'est juste ici avant Apocalypse, Jude et après Hébreux. Bon, comprenez bien cela maintenant. Hébreux chapitre 4, nous y sommes. Très bien. Hébreux. Here we are. All right. Hébreux chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Et puis, il vous traite de diseur de pensée. C'est la parole de Dieu manifestée dans son Église. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Dites, je viens juste de penser à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai noté. Prenez juste une minute. Apocalypse 19, reprenons-le. Je crois que c'est cela. Je suis peut-être. Apocalypse 19, au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Voici de nouveau le blanc, le jugement. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Très bien. Ses yeux étaient une flamme de feu. Qui était-il? Et sur sa tête était diadème. Oh, il est réellement venu dans le royaume maintenant. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est appelé la parole de Dieu. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Qu'est-ce qui est apparu? Le cavalier sur le cheval blanc? Et Apocalypse 7 aussi, quand je crois que c'est 8, quand le cheval blanc, non, c'est 6. Quand le chevalier sur le cheval blanc parut, il lui fut donné un arc pour vaincre, et une épée sortait de sa bouche. Qu'était-il? Le cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse? Observez l'épée. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. La parole. Et finalement, par sa parole, quand elle sera manifestée à tous les fils de Dieu, il foulera toutes les nations par sa parole. Cette épée aiguë. Observez ce qui se passe ici alors que nous la prenons. Et sa main droite et de sa bouche sortait une épée quelconque à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Une épée aiguë à deux tranchants, qu'est-ce qui sortait de la bouche de cette personne? La parole de Dieu. C'est une épée aiguë à deux tranchants, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle discernait les pensées, les intentions du cœur. Elle va au-delà du corps, de la chair, des cellules de sang, et va jusqu'aux os, jusqu'à la moelle des os. Et elle va droit au-delà de cela, même jusqu'à juger les pensées, les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son Église, habitant parmi nous. Ses anges dans sa main, les ministres, Dieu compte sur son Église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge-ci, pour apporter cette lumière de l'Évangile à ce monde mourant lié au paganisme et traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Oh, ils ont apporté la lecture, l'écriture, l'arithmétique et quelques brochures religieuses, mais ils n'ont fait des gens rien d'autre qu'une bande de prosélytes. Je veux dire l'Évangile. L'Évangile ne consiste pas en paroles seulement. Paul l'a dit. Paul a dit que l'Évangile n'était pas venu à nous en parole seulement, mais que cette parole a été manifestée. Quand la parole par le Saint-Esprit, la parole est plantée dans un cœur qui a le Saint-Esprit et elle produit ce que la parole dit qu'elle produirait, et la parole peut discerner les pensées du cœur. Gloire! Oh là là! Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole le fait. Une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, réveille les païens. Quelque chose doit se passer un séjour. Oui, La parole de Dieu, son nom était appelé la parole de Dieu, la parole manifestée. Écoutez, Jésus a dit, allez par tout le monde. Marc 16, dans sa dernière salutation à l'Église, avant qu'il ne retourne pour se révéler dans l'âge de l'Église, il a donné cet ordre à son Église. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce? En d'autres termes, démontrer la puissance du Saint-Esprit. Il le fallait. Maintenant, observez, à tout, pas simplement enseigner la parole, il n'a jamais dit aller enseigner la parole, il a dit aller prêcher l'Évangile. Pas enseigner la parole, mais prêcher l'Évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru cet Évangile. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent un serpent ou boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Puis ils allèrent, dit l'Écriture, prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes qui les accompagnaient. C'est ça l'Évangile. L'Évangile en action. Ces signes en accompagneront combien? Jusqu'à la fin du monde, dans chaque âge? Il y a cette minorité qui vient tenant cette lumière. Pas étonnant que Jésus ait dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le petit troupeau, toujours une minorité, pas la majorité. Très bien. Bon, une citation de plus. Nous avons pris le verset 20 maintenant. Voyons ce verset-ci. Bon, le verset 16. « Et il y avait 7 étoiles dans sa main droite. » Maintenant, prenons le et les traits de son visage. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Si vous allez, voyons dans Matthieu 17, prenons cela tout de suite. Pendant que nous y sommes ainsi, nous allons voir cela en passant. La plupart de ceux qui notent cela, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de le lire afin de le comprendre. Matthieu 17. Très bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transformé. Qu'avait-il fait? Il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Maintenant, observez, jusque quelques heures avant ceci, Jésus avait fait cette déclaration juste ici au chapitre précédent. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, combien savent ce que je vais dire? Quelques-uns de ceux qui sont ici vont le dire en vérité, qu'il ne passera point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Est-ce vrai? Il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. En effet, dans l'Ancien Testament, toute chaque petite parole était établie sur la déposition de 3 témoins. Il les a amenés sur la montagne. Remarquez ce qui vient premièrement. Je ne veux tout simplement pas m'arrêter ici. Je dois prendre ceci. Écoutez, quelle est la première chose qu'ils ont vue? Ils ont amené Jésus là sur la montagne, ou plutôt, il les a amenés là. Il fut transfiguré devant eux, transformé. Ses vêtements brillaient comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et Moïse et Élie apparurent à ses côtés. Sous forme vient le Fils de l'homme. Moïse et Élie apparaîtront premièrement. Maintenant, observez, avant que Jésus ne revienne sur la terre, bon, nous anticipons un peu ici, mais l'esprit d'Élie reviendra sur la terre et ramènera le cœur des enfants à leur père. La Bible dit, Jésus l'a vu là, les apôtres l'ont vu là, lors de la venue du Fils de l'homme glorifié. Il doit être glorifié et revenir. Quelle était la première chose avant qu'il ne le voie? Élie. Puis qui? Élie. Puis qui? Moïse. Israël revenant là, les gardiens de la loi, et enfin le Fils de l'homme glorifié. Alléluia! Voyez-vous l'ordre de sa venue? L'esprit d'Élie ou le témoin du dernier âge de l'Église? Voyez, venant avec puissance pour le manifester. Alors les 144 000 Juifs vont se rassembler au mont Sinaï, là où Israël est devenu une nation, la nation la plus ancienne du monde, le drapeau le plus ancien du monde. Ils ont leur propre nation, leur propre drapeau, leur propre armée, leur propre monnaie et tout le reste. Ils sont membres des Nations Unies, car ils sont une nation. Jésus a dit qu'ils ne seraient jamais rejetés avant que toute chose soit accomplie. C'est mystérieux la manière dont ce groupe de Juifs a été partout persécuté, repoussé, chassé, rejeté de la même manière que l'Église au cours des âges de rejet. Et pourtant, Jésus a dit, « Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, cette nation qui redevient une nation, le temps est proche à la... Le temps est proche à la porte, je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Cette lignée, ce peuple ne disparaîtra pas. Hitler a cherché à les exterminer. Mussolini a cherché à les exterminer. Staline a cherché à les exterminer, ainsi que tous les autres. Mais ils ne seront jamais ternis, ou plutôt bannis de la terre. Ils se tiendront là comme un peuple et une nation là-bas. Amen. Moïse et Élie viendront. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Très bien. Le soleil qui brille dans sa force. Son visage transformé, transfiguré. Bon, il y a une autre chose dans Apocalypse 21-23, si vous voulez le noter. Dans la Nouvelle Jérusalem 21-23, il est l'agneau qui est dans la ville, qui est en la lumière, qui l'éclaire. Car ils n'ont pas besoin de la lumière dans cette ville. Le soleil ne s'y lèvera pas parce que l'agneau qui est au milieu de la ville en sera la lumière. Et les nations qui sont sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Amen. Il est la lumière de l'agneau. Oh, n'êtes-vous pas heureux de cela? Non seulement cela, mais il est aussi dans la venue. Jean l'a vu au jour du Seigneur, le soleil de la justice. Allons dans Malachie. Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie au chapitre 4. J'ai une petite histoire à vous raconter au sujet de ma chère femme qui est assise là au fond. Je lui ai fait passer des moments difficiles avant que nous soyons mariés. J'ai essayé de compenser cela après notre mariage. Et je ne savais pas si oui ou non je devais me remarier. Et cela l'a donc brisé totalement. Je me disais qu'elle était trop bonne fille, qu'il valait mieux la laisser épouser un brave homme qui prendrait soin d'elle. Je me disais même que je n'en étais pas digne, je ne mérite pas sa bonté de toute façon. Ainsi, cela la brisait. Et elle ne savait pas quoi faire. Il y a de cela des années, maintenant environ 20 ans. Elle était tellement brisée qu'elle pleurait nuit et jour et j'essayais de rompre avec elle, non pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je ne voulais pas prendre son temps. En effet, je voulais la laisser trouver quelqu'un, un brave homme, parce qu'elle était trop une bonne fille pour continuer comme cela, prendre soin et ces choses. Je croyais qu'elle m'aimait et je savais que je l'aimais. Ainsi, je m'étais dit, je vais prendre rendez-vous avec une autre fille, je sortirai avec elle afin qu'elle ait de mauvais sentiments à mon égard. Je l'ai presque tuée par la suite. J'ai vraiment détesté que j'ai fait ça. Elle en fut tout brisée. Je lui ai parlé. J'ai dit, tu étais une trop bonne fille. Je ne veux pas prendre ton temps comme cela. Elle a répondu, mais je t'aime, Bill. Tu es le seul que je puisse aimer. Elle a dit, je t'ai toujours aimé. J'ai dit, j'apprécie cela, mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit, je suis un ermite. J'ai dit, je vais vivre comme un ermite. Tu vois, je ne vais pas me marier du tout. Elle dit, tenait tellement. Vous savez, la pauvre petite, elle est allée dans la remise. Elle est allée là, s'est agenouillée. Elle dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas te désobéir. Et pourtant, j'aime Bill. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Voudrais-tu me donner un peu de consolation? Voudrais-tu m'aider un peu? Je ne t'ai jamais demandé ceci de ma vie, Seigneur, et j'espère ne plus avoir à te le demander. Dit-elle, mais veux-tu m'aider? Laissez-moi ouvrir cette Bible et donne-moi une écriture. Des gens m'ont appris que tu avais fait cela, et quand elle l'ouvrit, c'était dans Malachie 4. Voici, je vous donnerai, ou plutôt je vous enverrai Élie le prophète avant ce jour redoutable de l'Éternel. Elle a dit, je me suis levé plus convaincu que jamais que nous nous marierions, voyez? Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, oui, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil, S-O-L-E-I-L, le s'élèvera, le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Oh, la force du Fils de Dieu brille au milieu de nous ce soir. Il se tient au milieu des sept chandeliers d'or dans les sept faces de sa personnalité ici en tant que juge. En tant que celui qui a souffert et qui est mort pour nous et qui a pris sur lui le jugement divin et a foulé la cuve de la colère de Dieu. Pour le pécheur et pour une âme perdue sur l'océan de la vie, il est une cascade redoutable et pour l'Église, il est un doux sauveur. Elle est ancrée dans le repos, elle entend le gargouillement du ruisseau tandis qu'elle est au repos parfaitement satisfaite en Christ. Quel temps! Brillant sur nous de ses rayons chauds, ne crains point. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je donnerai gratuitement à celui qui a soif les sources des eaux. Oh, quelle promesse et quelle histoire d'amour! Et l'agneau est au milieu de cette ville qui n'a pas besoin de la lumière. Il est le soleil de la justice ayant la guérison sous ses ailes. Il est lisse de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Dans le danger, il est là. C'est lui qui tient l'épée. Toujours, il m'apprend à m'appuyer sur lui. Alléluia! Il est lisse de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Oui, monsieur. Oh, lorsque cette glorieuse étoile du matin paraîtra pour briller, saluant le jour qui se lève, l'annonçant disant, le jour va bientôt se lever, le Fils se rapproche, il se retire de derrière toutes les autres étoiles, oh là là, avec la guérison sous ses ailes. Bon, revenons à notre message, et nous terminerons maintenant afin de nous préparer pour demain soir, car il est 9h moins le quart, et nous ne pouvons pas vous garder trop longtemps afin que nous puissions revenir. Très bien, le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, son visage, il était un juge ou autre chose pour montrer qu'il était ravi au jour du Seigneur. Vous croyez cela? Il était ravi au jour du Seigneur et vit le Seigneur en tant que juge. Non en tant que sacrificateur, non en tant que roi, mais en tant que juge. Il est un juge, ne le croyez-vous pas? La Bible dit qu'il est un juge et ici, il était vêtu comme un juge, montrant ce qu'il avait fait, ce qu'il était pour le pécheur et ce qu'il était pour le chrétien. Il est voici debout maintenant avec une voix semblable aux grandes eaux et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Maintenant, voilà les résultats au verset 16. Et non, excusez-moi, c'est au verset 27. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Oh là là, le prophète ne put rester debout plus longtemps en voyant une telle vision. Il n'avait plus de force et il tomba à ses pieds comme mort. Maintenant, observez, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Oh là là, ce n'était pas un prophète, mais Dieu. Je suis le premier et le dernier. Je suis la première révélation et la dernière révélation. Je suis celui qui était, je suis celui qui est, je suis celui qui vient. Voyons, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant même. Puis il cria, Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon, ne vous effrayez pas. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Pourquoi l'Église manquerait-elle de garder de penser à sa parole? Arrêtons-nous ici juste un moment parce que nous allons terminer. Pourquoi donc cette Église aurait-elle peur? Qu'a-t-il déjà promis qu'il n'a pas accompli devant nous? Pourquoi craindriez-vous une punition ou une conséquence? Ne crains point, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant même, pourquoi? J'ai vaincu et conquis l'enfer et la mort, c'est-à-dire la tombe et l'Hadès, la mort elle-même, l'Hadès lui-même. Pour vous, j'ai vaincu tout cela. J'ai vaincu le séjour des morts, la mort, la tombe. Quand il était sur la terre, il était le seul. Beaucoup d'hommes ont cherché à conquérir. Savez-vous cela? Napoléon a cherché à conquérir le monde. Il l'avait fait à l'âge de 33 ans. Entre 17 et 25 ans, Napoléon fut un prohibitionniste. Il ne croyait pas au fait de boire et à quoi que ce soit du genre. Il allait en France. Il n'était pas français. Il venait d'une île. Il était allé en France pour se venger parce qu'il ne l'aimait pas. Il n'aimait pas la France, mais il fut vaincu. Il alla conquérir la France et il prit ses Français et conquit le monde. Et à 33 ans, il s'assit et pleura parce qu'il n'y avait plus personne à conquérir. Et il mourut alcoolique. Vaincu, il ne put même pas se conquérir lui-même, voyez. Il essuya un revers à Waterloo. Il connut sa fin à Waterloo. Je suis allé là et j'ai vu les anciens symboles, les vestiges et autres, quand nous sommes allés dans ce pays. Maintenant, prenons ce conquérant. Il commença étant un jeune homme, il prit la mauvaise direction pour conquérir. Il mourut dans la disgrâce. Mais il y a un autre jeune homme qui était venu au monde à une certaine époque. Il mourut à 33 ans et il conquit tout ce qui pouvait être conquis. Quand il était sur la terre, il conquit les passions, l'orgueil. Il conquit la maladie. Il conquit les démons. Quand il mourut, il conquit la mort. Quand il ressuscita, il conquit le séjour des morts. Il monta et conquit tout ce qui était contre la race humaine et purifiait le vin au pressoir de Dieu. Il foula cela et conquit la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, le formalisme et tout. Il conquit tout cela et ressuscita le troisième jour. Il conquit l'atmosphère là-haut et dissipa le brouillard qu'il y avait entre Dieu et l'homme et réunit les cieux et la terre. Gloire! Oh là là! Phew! Il se tient là, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Le voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Elles sont suspendues à mon côté. Ne crains pas, il posa sa main droite, sa puissance sur lui, et le releva par la force de sa main droite. Il dit, ne crains point, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. J'étais vivant, je suis celui qui était mort et de nouveau vivant au siècle des siècles. Amen. Oh, voici le puissant conquérant. Le voici qui apparaît clairement. Il est là, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait eue au Jardin d'Éden. Bon, l'homme, j'allais ravaler cela, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela? Mais il l'est! Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, « Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. » Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela a créé une puissance qui va là et fait que les choses se produisent, que des choses qui n'existent pas, cela fait comme si elle était parce que deux omnipotences se sont rencontrées. Il se tient là. Oh, n'est-il pas merveilleux? Voyons si nous avons encore d'autres bonnes choses. Le verset 18 maintenant, le verset 19. Jean, que s'est-il passé? Quand il a vu son visage comme conséquence, il est tombé à ses pieds. Il ne pouvait plus se tenir debout. Sa vie humaine tombait en défaillance. Il ne pouvait pas le faire. Il était un conquérant. Il avait déjà conquis. Maintenant, il donne un commandement. Et alors, nous arrivons à la fin du chapitre, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Prenons le verset 20. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept lampes sont les sept églises. Oh, c'est à vous couper le souffle, les amis. Le voir se tenant là, dans la suprématie de sa divinité, il est le juge. Le sacrificateur, le roi, l'aigle, l'agneau, le lion, l'alpha, l'oméga, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Il a foulé la cuve de l'ardente colère de Dieu et il a donné satisfaction en tout. Si bien que Dieu a dit à la croix, lorsqu'il s'est levé, il a dit, « Tout est accompli ». Cela a plu à Dieu, si bien que l'esprit qu'il avait quitté est revenu au matin de Pâques. Il l'a relevé, l'a ressuscité pour notre justification. Là, Jean leva les yeux et le vit debout là, ayant des pieds semblables à de l'airain, des yeux comme des flammes de feu parcourant toute la terre. Daniel l'avait vu 700 ans auparavant dans la même position, ayant la même apparence, le même homme, se tenant là, l'ancien des jours, et quelqu'un semblable au Fils de l'homme, se joignait à lui, et tout jugement lui fut remis. Il était là au jugement du trône blanc. En voyant ces choses, quel genre de personnes devrions-nous être, mes amis? Ma prière est que Dieu vous bénisse. Vous voyez, l'aimez-vous? Croyez-vous en lui? Avez-vous ancré votre âme en lui? Inclinons la tête un instant. Calmement et doucement, pendant que nous allons chanter calmement, j'ai ancré mon âme dans le havre du repos. Je n'entendrai plus le grondement de ces cataractes qui emportent mon âme, mais cela parlera d'une douce paix à mon âme. Calmement maintenant, avec respect chacun. J'ai ancré mon âme dans le havre du repos. Je ne naviguerai plus les mers. La tempête peut s'élever alentour. En Jésus, je suis à l'abri. J'ai ancré mon âme dans le havre du repos. Je ne naviguerai plus les mers. La tempête peut s'élever alentour. En Jésus, je suis à l'abri. Jésus, je suis à l'abri. Brille sur moi. Répands tes rayons de gloire, Seigneur. Seigneur, brille sur moi. Que la lumière du phare brille sur moi. Brille sur moi. Seigneur, brille sur moi. Levons les mains vers lui. Que la lumière du fer brille sur moi. Être comme Jésus. Oui, Seigneur, être comme Jésus. Je désire être comme lui. Le long du chemin jusqu'au jour divin. Je désire être comme lui. Ô merveilleux Sauveur, sur terre, je désire être comme lui. Le long du chemin jusqu'au jour divin. Aimeriez-vous avoir sa vie en vous, reflétant sa présence? Si c'est le cas et vous ne l'avez pas encore, voudriez-vous vous lever pour la prière? Ceux qui voudraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, que Dieu vous bénisse. D'une crèche de Bethléem, restez debout maintenant, restez simplement. Vint un étranger. Vous serez un étranger pour le monde. Oh, je veux être comme lui. Le long du chemin. Jusqu'au jour divin. Je désire être comme lui. Être seulement comme Jésus. Être comme Jésus. C'est mon désir. Sur terre, je désire être comme lui. Le long du chemin. jusqu'au jour divin. Je désire simplement être comme lui. Modeste, humble et modeste. Maintenant, Père Céleste, ils sont nombreux ceux qui, debout, désirent te recevoir. Ils sont fatigués d'errer partout, ne sachant pas où ils vont, emportés par le courant de la vie, et ils savent que peut-être avant le point du jour, leur cœur pourrait cesser de battre, et alors leur âme en dérive tomberait dans la grande cataracte qui est devant eux, une âme errante. Ils s'identifient à eux-mêmes, ils étaient comme le monde, mais maintenant ils veulent être comme toi, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, ils sont tiens, Père. Car tu connais leur cœur et les intentions de leur cœur. Tu as écrit cela et tu l'as dit de ta propre bouche. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu as aussi dit, Seigneur, heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps sont proches. Ils se rendent compte que le temps est proche. Ils ne peuvent plus dériver, Seigneur. Jette la ligne de sauvetage et tire-la vers toi, Seigneur. Puisse-t-elle aller à partir de ce soir refléter la lumière de Jésus-Christ. Je te les confie, Père divin, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent humblement suivre le Seigneur ici à l'Église, dans le baptême. Place le Saint-Esprit dans leur vie afin qu'ils soient comme Jésus le reste de leur jour. Nous te le demandons en son nom. Être juste comme Jésus. Être comme vous tous qui êtes chrétiens, qui vous tenez près de ces gens, tendez la main, prenez la leur et serrez-la, posez vos mains sur eux. Louez Dieu pour leur âme. Notre hôtel ici est rempli d'enfants et d'autres personnes. Nous ne pouvons pas les faire avancer ici, du chemin jusqu'au jour divin. Je désire simplement être comme lui. Brille sur moi. Oh, brille sur moi. Que la lumière du phare brille sur moi. Brille sur moi. Seigneur, brille sur moi. Oh, que la lumière du phare brille sur moi. Vous sentez-vous bien, vraiment bien? Ne vous sentez-vous pas bien? N'êtes-vous pas heureux d'être un chrétien? Serrez maintenant la main à quelqu'un qui est assis près de vous. Pendant que nous allons chanter ce cantique, nous marcherons dans la lumière, cette belle lumière, la lumière du Seigneur Jésus-Christ manifestée dans la chair. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Chantons-le tous. Oui, nous marcherons dans la lumière. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Vous tous les saints, proclamez Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière du monde. Levez la main maintenant. Oui, nous marcherons dans la lumière. Cette belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Nous continuerons à marcher dans cette lumière, cette belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, il est la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans cette lumière, la lumière de l'Évangile, une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Tout au début de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé sur l'Église, le message s'est poursuivi jusqu'à Smyrne. Il y avait là Irénée, le grand saint de Dieu, qui parlait en langue, avait la puissance de Dieu, ressuscitait les morts, guérissait les malades. Il marchait dans la lumière. Après lui vint Colomban, le grand et puissant saint de Dieu. Beaucoup d'autres grands saints transmirent le message, marchant dans la lumière de l'Évangile, et la même lumière que celle qui brilla au jour de la Pentecôte. Christ se tient au milieu de son peuple, dans ses sept lampes d'or reflétant son éclat, comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous voici en 1961. Oui, nous marcherons dans cette lumière. Là, cette belle lumière. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous. Le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Levons-nous. Nous continuerons à marcher dans cette lumière, cette belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime parce qu'il, juste parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Jamais plus je ne me tournerai vers les choses du monde. Je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Je marche simplement à Christ, conduit par le Saint-Esprit. Je l'aime parce qu'il m'aime et a fait briller sur moi ses bénédictions, me donnant la main d'association dans son royaume. Maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu, et ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Alors, nous marcherons dans cette lumière, une lumière si belle, là où la miséricorde étincelle brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. L'aimez-vous? Vous savez, après un message aussi tranchant et tout, j'aime entendre les gens se mettre à chanter des cantiques et à adorer et à chanter en esprit. Il n'y a rien de mieux que les bons vieux cantiques. C'est vrai. J'aime les bons vieux chants pancotis à l'ancienne mode, pas assez voix exercée à l'excès, qu'on retient au point qu'on glapit, qu'on devient bleu, qu'on ne sait plus ce qu'on est en train de chanter. J'aime quelqu'un qui peut-être chante faux, mais qui cependant a les bénédictions de la Pentecôte et alors les chante. Oh, comme ces cantiques mélodieux de la croix sont glorieux. Oh là là. Notre cantique pour terminer maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Demain soir, le service commencera à 7h, à 7h précise. Nous nous courberons devant lui, nous prosternant à ses pieds, pour le couronner roi des rois, le voyage terminé. Chantons tous maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, nous avons terminé pour ce soir. Là, on vient de me demander s'il y aura un service demain matin. Non, pas demain. Reposez-vous bien demain. Il se pourrait que demain soir, je ne sois pas en mesure de terminer ce message. Je le reprendrai alors le jour suivant. Chaque fois que je n'arriverai pas à terminer le message, je le terminerai le lendemain. Mais nous en avons fini avec ceci. Je crois que vous êtes tous prêts pour les heures de l'Église, n'est-ce pas? Très bien, inclinons la tête pendant que nous chantons cela doucement. Maintenant, du nom de Jésus, chaque langue va confesser cela. Nous prosternant à ses pieds, pour le couronner roi des rois, le voyage terminé. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel.